Jörg Haider, c'est pas un homme, c'est un ancien homme politique d'extrême droite, donc il est mort bourré en rentrant dans un platane à 140 km, un taux d'alcool de 1,8 g. Autant vous dire qu'il était rond comme une baleine.
Triangle en bouteille de pierre en Maori, c'est évident. On a de très grands techniciens devant, ça peut faire de très belles choses.
C'est quand même impressionnant que tu dis ça, puisque derrière, tu as quand même des joueurs comme Pavel Nedved, qui n'est pas la dernière planche, mais, et tu as la Promea Atomica, qui est quoi, Minko. Et qui m'a surtout impressionné aux Jeux Olympiques.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le vendredi 11 septembre 2009. C'est l'heure de l'Europe des soccer. Avec moi ce soir, j'aurai le plaisir d'avoir Roméo avec moi.
Oui, bonsoir à tous.
Il y aura
Il
y aura aussi notre portugais Pierrot.
Bonsoir à tous, tout bronzé avec ma barbe de vacancier et ma belle chevelure.
En tout cas, la barbe pour un portugais, ça lui va bien.
Et sans copine. Pardon.
Et il y aura aussi Valentin, notre Suisse national.
Salut à tous.
Ok, on va tout de suite commencer cette Europe des soccer en parlant du championnat d'Espagne. On va ensuite parler du championnat d'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et bien sûr le Portugal, pour ne pas oublier nos amis lusitaniens. Et pour finir, deux petits mots sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Alors c'est parti pour le football espagnol. Ce soir, alors ce week-end en Espagne, on aura un Getafe FC Barcelone. Le premier contre le troisième, l'Atlético Madrid contre Santander, l'Espagnol de Barcelone contre le Real Madrid, le FC Séville contre Saragossa, c'est le samedi. Et le dimanche, on aura Tenerife, Osasuna, La Corone, Malaga, Villarreal, Mallorca, Sporting Gijón contre Almeria, Valladolid contre le FC Valence et Xeres contre l'Athletic Bilbao. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, mais je pense que l'affiche la plus alléchante en Espagne, ça sera le Espagnol Barcelone Real Madrid.
Ah, moi je pensais plutôt Xeres Malaga.
Non, Bilbao.
Tu réduit à un rôle humoristique aujourd'hui.
Ouais. Je crois que c'est sa pizza qui est un peu.
Parle pas la bouche pleine. Hein.
Voilà.
Et qu'est-ce que j'ai dans la bouche, on ne sait pas.
Mais bah. Ben, on veut pas savoir. Hein.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs, pour ce match-là, pour l'Espagnol Barcelone-Real Madrid. Bah, déjà, ce sera le premier match de l'Espagnol dans son nouveau stade et aussi l'un des premiers gros tests du Real Madrid qui n'a pas été très convaincant il y a deux semaines, pardon, lors de la première journée. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Valentin, si tu as pu voir le match il y a deux semaines contre La Corogne?
J'avais pas regardé le match, et j'ai suivi un peu en même temps que le derby, mais bon, franchement le Real de toute façon ça va se mettre tranquillement en route. Je pense que après une semaine de championnat tu peux pas forcément juger quoi que ce soit.
Ouais.
Ça va bientôt se se brancher, tout qui va se mettre ensemble et puis peut-être quoi pouvoir découvrir enfin de bonnes choses. Ils ont assez de la chance avec la Ligue des Champions parce qu'ils commencent par Zurich. Mais attention au FC Zurich, évidemment. Non, mais franchement, ça va se mettre en route, je pense. C'est peut-être pas forcément demain que tout va déjà tous les gens va s'enflammer, mais il y aura un décalage horaire pour quelques joueurs, notamment Kaka. Je ne sais pas s'il va pouvoir jouer vu que.
Si, Kaka a été.
Ouais. Il y avait plutôt du but du Brésil.
Ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
Je pense que ça va pas être forcément le premier match référence, surtout que qu'ils doivent avoir 2 jours d'entraînement dans les jambes après leur retour avec l'équipe nationale.
Ouais.
On va peut-être pas forcément aboutir à un constat définitif déjà demain, mais ça va être intéressant à voir ce que Benzema qui a joué 10 minutes en 2 semaines, enfin une semaine et demie, va peut-être pouvoir faire pour répondre à notamment aux Français à Domenech par hasard, sinon Ronaldo qui est invité avec la sélection qui peut peut-être aussi enfin révéler quelque chose, mais à mon avis c'est pas sur ce match qu'on va tirer les conclusions
Bah je...
hâtives et...
Ouais, excuse-moi de te couper, mais Ronaldo, tu soulignes bien ce cas-là. On retrouve pas le Ronaldo de Manchester United de l'année dernière, aussi bien avec la
Même de
sélection.
l'année dernière, déjà, c'était pas forcément
Voilà,
flamboyant. C'est le Ronaldo d'il y a 2 ans qui a
il a
porté
été ballon
disparu.
d'or. Ouais. Non, mais comme je voulais, en plus, je voulais en parler. Tu as fait une super transition sur ce joueur. On n'arrive plus à revoir le Ronaldo aussi bien avec la sélection portugaise qu'avec son nouveau club, le Real Madrid. Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour en forme de Cristiano Ronaldo à Barcelone ce week-end?
Oui, si il retrouve son vrai rôle d'ailier, parce que on parle du Ronaldo d'il y a 2 ans, mais il y a 2 ans c'était le Ronaldo buteur, et je pense que le vrai Ronaldo c'est celui entre 2004 et 2007, c'est-à-dire celui qui éliminait en un contre un, qui était le meilleur passeur d'Angleterre, et avec les achats du Real Madrid, le schéma tactique de Pellegrini, je pense que si Cristiano Ronaldo veut véritablement réussir, je pense qu'il doit retrouver ce rôle d'ailier.
D'accord, ok. Et vous croyez pas que Kaka et Cristiano Ronaldo peuvent se marcher sur les pieds parce que je trouve que bon, moi je
Ça
trouve qu'il y a...
dépend si on a un droit à gauche, ça veut dire qu'il se marche pour les pieds quand même.
Oui, mais bon, il faut bien qu'un des deux joueurs prenne le jeu à son compte. Il faut un certain leader technique dans cette équipe. Et j'ai bien
À mon
peur
avis, s'il y en
que...
a bien un qui peut prendre le jeu à son compte dans cette équipe, c'est Xabi Alonso.
Ouais, mais je parle du football offensif.
Ouais, mais tu vas me dire qu'il est pas offensif, Xabi?
Moi, je trouve pas trop, mais
Ah, mais de toute
bon.
façon, c'est lui la rampe de lancement de cette équipe, hein. Et d'ailleurs, c'est
C'est
pour ça qu'il est venu.
l'avant-dernière passe, quoi.
Ouais, c'est justement, c'est pour ça qu'on compte sur lui. C'est lui qui doit déclencher l'action. C'est lui qui doit faire partir d'un côté ou de l'autre, ou bien en profondeur, ou bien trouver la solution. Et après, ça doit. Bah oui, bon, après, évidemment, on attend sur Ronaldo et Kaka, mais si ça peut se faire seulement en une ou deux touches, parce que Ronaldo et Kaka, avant de transmettre à un attaquant qui peut être Fabien Benzema, soit Raoul, soit Higuain, c'est déjà forcément mieux. Franchement, pour moi, le vrai leader technique dans cette équipe, c'est Xabi Alonso, plus qu'un Kaka ou d'un Ronaldo.
Ok, d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du début de saison de Lassana Diarra? Moi, j'ai trouvé qu'il devient de plus en plus bon, de plus en plus offensif. Je ne sais pas, toi, Valentin ou Pierrot, pardon. Quel est votre ressentiment sur ce joueur?
J'attends de
Je pense.
voir.
Moi, je
J'attends de
pense
voir,
que.
ouais. Vas-y, vas-y,
Moi, je
Pierrot.
pense qu'il va confirmer sa saison. Ses 6 mois de l'année dernière, je pense que. Il a profité de ses 6 mois de l'année dernière pour s'installer comme titulaire, et je pense que maintenant, il va garder sa place. Je pense que.
Pour la place,
Je
c'est sûr. Je pense qu'il est franchement, faut le dire, il est très bon. Maintenant, on l'a que très très rarement vu face à des équipes d'un gabarit important. Bon, le seul gros match qu'il a vraiment pu jouer avec le Real, c'était contre le Barça l'année passée en Liga. Et c'est à peu près tout, hein, pour l'instant. Maintenant, on va voir. Il tombe dans un groupe où il y a notamment le milieu, c'est peut-être pas forcément en très bonne posture en ce moment. Il y a Marseille à un degré moindre. Mais sinon, c'est vraiment cette saison qu'on attend de voir une régularité dans les performances face aux grosses équipes. Et c'est cette saison qu'on pourra vraiment juger quoi que ce soit, parce que quand il arrive à dépasser, il arrive le Real est pour bon, le Real étant 8e Ligue Champion, il joue contre Liverpool, ils sont éliminés. Il n'est pas forcément arrivé dans les meilleures conditions pour démontrer quoi que ce soit, bien qu'il a fait, il a fait un 6 derniers mois de la saison 2008-2009 excellent, ça c'est sûr. Maintenant, il faut vraiment qu'il prenne une envergure plus importante dans cette équipe et qui montre vraiment à mon avis il a tout un talent, c'est sûr. Mec qui démontre vraiment ce que certains pensent de lui. Moi, je reste encore un peu sur ma faim pour être sûr de ce qu'il peut démontrer la fin de l'IRA, mais j'ai finalement pas trop de doutes, mais va falloir quand même suivre ça avec attention.
Ok, merci messieurs. On a pu aussi apprendre le retour de Van Nistelrooy. Qu'est-ce que le retour de Van Nistelrooy peut avoir comme effet sur Karim Benzema, la nouvelle recrue du Real Madrid?
Aucun. Un bon plus pour les coupeurs d'agrumes en déficit. Okay.
Voilà,
Non, parce que
Benzema il arrive à Madrid ou quoi? Il peut pas être directement mis sur le banc par Van Nistelrooy. Il en a c'est un peu assez.
Bah, Van Nistelrooy. Van Nistelrooy a démontré qu'il avait largement le niveau et un vrai sens du but. Hein.
Pellegrini, aujourd'hui, il peut pas mettre Benzema sur le banc.
Bah oui, non, je suis d'accord avec toi, Valentin, parce que quand tu lâches 35 millions d'euros pour un joueur, c'est pas pour mettre sur le banc.
Et surtout, vu comme il arrivait à Madrid, comme tout d'un coup, c'est devenu la nouvelle star, limite en Europe, ça m'étonnerait franchement qu'on le voit comme André Freloy. Il n'y a quand même aucun mérite à le joueur. C'est vraiment un super joueur dans son genre. Mais c'est pas maintenant qu'il va pouvoir prendre la place de Benzema ni de Raoul, je pense, qui va rester encore cette saison, qui va faire ses matchs. Parce que c'est Raoul, justement, il est encore un Higuain qui, à mon avis, est devant lui. Van Nistelrooy, finalement, ça fait quoi? On est septembre 2009.
Ouais.
Ça doit faire quoi? Depuis novembre 2008 qu'il a pas joué.
Ouais, ça fait bientôt un an, ouais.
Voilà, donc c'est un an sans jouer. Surtout quand t'as 35 piges, franchement, tu vas pas me dire qu'il va au Real Madrid, il va venir prendre une place, il va jouer les matchs pré-Ligue des Champions contre les équipes de bas de tableau et la Coupe du Roi. Et puis si il amène quelque chose, bon, il rentrera peut-être bien en fin de match. Et ça reste encore à voir. Mais pour moi, pour l'instant, il va être, à moins qu'il démontre vraiment que c'est le Van Nistelrooy de l'époque. Il va être coltiné en rôle de remplaçant pendant une bonne partie de la saison, voire toute la saison.
Ouais, ok.
Sa seule chance, c'est si le Real a un déficit physique, là, il aura peut-être sa chance d'être titularisé, mais sinon, ce sera plus justement un joker s'il faut mettre la balle au fond et si le Real n'y arrive pas physiquement, justement. Mais vraiment, s'imposer comme titulaire, moi, j'y crois pas. Je pense vraiment qu'il va passer sa saison sur le banc et puis, bah voilà.
Ok, d'accord. Bah, je crois qu'on peut fermer la page du Real Madrid. On va en ouvrir une autre, celle de son rival, de son éternel rival, le FC Barcelone. Là, ça va être le premier match à l'extérieur pour le Barça cette saison en Liga à Getafe, le leader de cette nouvelle Liga, de cette nouvelle saison de Liga, qui a l'air en forme cette saison. Moi je plancherais plus pour une victoire du FC Barcelone, mais on a pu voir dans la presse que Lionel Messi est revenu de ses éliminatoires assez éprouvantes psychologiquement pour lui, vu la situation critique de l'Argentine.
Oulala.
C'est un match. Qu'est-ce qu'il y a, Roméo?
Non, j'espère qu'on a enregistré parce que là t'as enchaîné une phrase, je me demandais si c'était toi qui parlais.
Non, c'est bien moi, t'inquiète pas. non mais voilà quoi. Je trouve que ça va être un match un peu serré, Getafe Barcelone, surtout si Messi va être, parce que je pense que Pep va le mettre sur le banc pour démarrer et ça va être un match assez dur pour le Barça, surtout à l'extérieur.
En même temps, Getafe, on en sait pas grand chose. Hein. Faut rappeler quand même qu'il y a eu qu'une journée cette saison. Ils ont, je sais plus contre qu'ils ont joué leur première journée, Getafe.
Ils ont gagné.
Ouais, ils ont gagné, mais ils ont joué.
Ils ont gagné.
Le Racing.
Ouais. 4 buts à 1.
4 buts à 1.
Ok, c'est pas. C'est pas la plus nulle des équipes de Liga, pour ma vie.
Ouais.
Mais ça reste quand même le Racing Santander. Retafe, qui a eu une saison un peu compliquée l'année passée. Ça reste à voir, à mon avis, Barça.
Oui, Barça
Barça
va
non, mais
gagner
Barça,
normalement.
Si c'est leur première véritable. C'est leur véritable première journée demain, ce week-end pour le Barça.
Ouais.
Le lundi avant de présélection, quand ils ont joué contre Riron, le Sporting, c'était une première journée par défaut, c'est parce qu'il fallait jouer, mais à mon avis, c'est ce week-end que ça va vraiment commencer. Ils sont peut-être pas forcément extrêmement en forme parce que tous les interventions, tous les joueurs au presse ont été sollicités par leur sélection, mais je pense que ça devrait passer. Si ça va, parce que de toute façon, faut pas oublier que il y a un très gros match à venir en Ligue des Champions contre l'Inter mercredi, pardon. Donc c'est ça, à mon avis, ils peuvent pas se permettre quoi que ce soit le Barça et surtout pas un relâchement qu'il soit physique ou mental dans ce match. Sinon ça risque de faire mal contre une Inter, on en parlera peut-être après, mais qui est sur la bonne voie et qui peut se montrer intéressante c'est très 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 rapidement.
Ouais, comme tu l'as dit, l'Inter, on en parlera quand on développera le championnat d'Italie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Bojan Krkić? Moi, je sais pas, mais je reste très prudent sur ce joueur qu'on a trop surestimé, qu'on a trop embelli. Moi, je sais pas, moi, il me...
C'est un joueur d'un club moyen de Ligue 1.
Voilà, moi, pour moi, ce serait plus ça, parce que, bon, d'accord, elle a marqué lors du premier match, mais pour moi, ce n'est pas le remplaçant de Ibrahimovic. Si Ibrahimovic lui arrivait... Si Ibrahimovic était blessé, par exemple. Moi, je sais pas, moi je serais assez inquiet si...
Ouais, bah, si faut miser sur un remplaçant, je miserais... Très
sur Henri.
Ou sur Pedro.
Oui, mais Pedro n'est pas vraiment un neuf, quoi.
C'est pas forcément un neuf, mais ça peut jouer dans un rôle comme ça. D'ailleurs, c'est lui qui rentre à la place de Ibra en Supercoupe d'Europe contre le Shakhtar, et c'est lui qui est marqué, même si c'est pas forcément son poste. Mais dans un 4-3-3 comme ça, à mon avis, il n'y a pas besoin d'être un pur neuf pour jouer. Eto'o n'était pas un pur neuf. Ibra, un peu plus que Eto'o, mais c'est pas forcément. D'ailleurs, à mon avis, il va pas avoir une adaptation très facile dans système.
Ouais, moi
à mon
aussi.
Avis, c'est pas trop un problème pour de mettre un Pedro, par exemple.
D'accord. Ok. Et qu'est-ce que vous en pensez de la concurrence en latéral gauche entre Eric Abidal et Maxwell, vu que franchement, on a deux très bons joueurs. Bon, je pense que
Pep. Très bon, faut pas abuser non plus. Deux bons joueurs.
Maxwell est plutôt bon, moi j'aime beaucoup. Hein.
Mais bon, on parle de Maxwell et Abidal. Hein.
Mourinho, il aime moins.
Moi j'aime bien Maxwell, moi personnellement.
Ok, t'aimes bien, mais ça reste Maxwell et Abidal. Hein.
Préférence pour Jacques.
Non.
En fait, Maxwell c'est le pendant à Dani Alves, et puis Abidal c'est plus défensif. Ce sera selon l'adversaire, à mon avis.
Ouais.
Sauf
non,
de...
Mais non, mais à mon avis, c'est... Ouais, bon, c'est... Évidemment, c'est selon l'adversaire qu'ils vont devoir jouer. Mais Maxwell, dans un film comme le Barça, ça peut beaucoup être beaucoup plus intéressant qu'un Abidal, avec notamment une qualité de centre qui est bien meilleure chez Maxwell. Hein.
Ouais, ouais.
Et quand t'as un gars qui fait pas loin de... Non, il doit faire quoi? Il doit faire 1m85, le Nantes, par là.
Beaucoup plus grand, ouais.
J'avais un doute, moi. Il peut tout choper de la tête. À mon avis, si t'as un gars qui sait faire des sortes, des centres, il n'y a pas trop de questions à se poser.
Ouais.
Maintenant, si en face de toi, évidemment, tu dois jouer avec Cristiano Ronaldo, et encore, tu mettras peut-être Abidal, et encore, hein. C'est pas forcément le bust en matière de...
De marquage.
En matière de défense et de capacité à calmer un Ronaldo. Faut voir, mais bon, c'est à mon avis, c'est pas le souci primordial du côté du Barça, le poste de latéral gauche, même si c'était un des défauts durant les saisons précédentes.
On va rester sur le secteur défensif du Barça. On a pu apprendre aujourd'hui que Marquez serait peut-être dans le groupe pour Getafe. Et aussi le grand retour de Andrés Iniesta, qui va, après 4 mois de blessure apparemment, fait son grand retour aussi. Ça peut être, c'est des retours très importants pour l'ossature de l'équipe. Mais comme on voit aussi que dans le secteur défensif du Barça, surtout dans l'axe central, bon, on sait que Puyol est indiscutable. Est-ce qu'on peut envisager un retour de Marquez aux côtés du capitaine catalan?
Tant que Piqué là, à mon avis, ça va être dur.
Tu trouves que Piqué est plus fort que Marquez?
Dans la relance, enfin non, ça se vaut, c'est
la relance,
c'est le même style de joueur. C'est dans la capacité, parce que le Barça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une défense qui joue limite un rôle de milieu relayeur, qui peut distribuer un peu partout. Et bon, Piqué et Marquez, à mon avis, c'est un peu la même chose. Maintenant, si il arrive qu'une fois, on doit décaler un Puyol sur un côté. Alors, les deux, ça peut être extrêmement intéressant, mais je sais pas, Puyol, Piqué, au vu de la saison précédente, je le sens très très bien.
D'accord, ok. Bah, moi, surtout, comme moi, je privilégierais plus un Marquez qu'un Piqué. Qu'un Piqué, parce que bon.
Il y a un an, je t'aurais dit la même chose, mais Piqué, franchement, il m'a super, super impressionné là. La saison passée, j'ai trouvé
ouais, extrêmement vrai,
intéressant. Je connaissais pas vraiment beaucoup beaucoup de lui. Et puis quand on sait comment il a pu galérer pour trouver sa place à Manchester et qu'il revient à Barcelone où il s'est vraiment vraiment posé, ça a été une des très bonnes surprises du côté du Barça la saison passée. Je le vois mal, surtout qu'il a gagné aussi une place de titulaire avec la Roja, hein, dans la sélection espagnole. À mon avis, on peut pas le stopper dans sa progression maintenant. Et faire de Marquez un titulaire déjà un titulaire à sa place, c'est ça va être une question de gestion surtout.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. C'est un peu le même combat entre Abidal et Maxwell, quoi. C'est selon les matchs, on va mettre certains joueurs et d'autres on va les mettre sur le banc, quoi. C'est ça.
Ouais. Je pense.
Voilà.
Et il faut pas oublier que Marquez il sera sûrement titulaire pendant la CAN à la place de Yaya Touré.
D'accord, ouais, ça peut être une très bonne solution puisqu'on connaît bien son.
Quand même, Marquez, je vois moins avoir un abattage physique par rapport à Yaya Touré qui est franchement impressionnant dans ce
match-là. Ouais.
Même si, à mon avis, avec Marquez, t'es plus sûr à la relance,
ouais.
C'est assez différent. Même si, ouais, Marquez, ça peut être intéressant, plus que par exemple un Seydou Keïta, je pense.
Ouais, c'est vrai.
Oui, bah, le Mali il sera aussi, non? Non, ils n'avaient pas été éliminés pendant la première phase.
Le Mali, ils ont joué l'autre oui. jour. Il me semble qu'il y a Samassa qui a marqué même avec eux. Ils sont peut-être qualifiés pour la CAN.
S'ils sont dans la deuxième phase, est-ce que je vais vérifier là? C'est quasiment sûr, puisque c'est les trois premiers qui se qualifient.
Ouais.
Mais je suis pas sûr comme tu dis Pierrot, qu'ils aient passé le premier tour de qualification.
Ok, d'accord.
On vérifie ça.
On a pu voir aussi que dans le forum de Soccer, s'il n'y a pas de réaction sur l'émission, bah n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Je ne sais pas, mais en tout cas, si vous avez des questions, des remarques à nous faire. On aura le plaisir de les développer ensemble avec mon équipe. Ouais. Alors, il y a une autre information aussi. Bon, je ne sais pas si elle est importante ou elle mérite d'être dite. Il y a un petit garçon de 7 ans qui a signé au Barça.
Dédicace à Dan.
Voilà, qui s'appelle Caïs.
Attends, tu te rends compte que des gars de 7 ans, ils ont signé au Barça. Le gars, il se mentait devant les gars de sa classe de CP en disant ouais. « Les gars, je vais aller jouer au Barça. » Attends, il y a 7 ans.
Ouais, mais bon, c'est là que... Bon,
Dieu, ce qui va devenir, le gamin.
On verra.
Les gentils, ils ne sont jamais formés trop tôt.
Bah, qu'est-ce que vous
Et
en
puis si,
pensez,
sinon,
vous?
juste pour revenir sur le Mali, ils sont deuxièmes de leur groupe avec
Ah, ah
le
oui,
Bénin justement,
justement, voilà.
derrière le Ghana.
Ils ont.
Donc bon, ils sont loin du Ghana, mais ils sont en passe de se
Ils ont
qualifier puisqu'ils
quatre
ont 4
points
points
d'avance sur
d'avance.
le Soudan. Exactement. Et ils
D'accord.
vont les recevoir le 10 octobre prochain. À Bamako.
Merci Roméo pour cette page
À Bamako,
africaine.
17h, le samedi 10 octobre. Si
Bah c'est
jamais
bon Roméo.
vous voulez assister au match.
Le néo-africain, c'est bon, tu peux t'arrêter.
Ouais.
Ce sera tout à l'heure.
Ce sera tout à l'heure, Roméo. Bon, on va rester sur le Barça et le jeune de 7 ans, un ancien
Quoi?
Lyonnais. Ancien Lyonnais, bon, bah, on voit que Aulas a encore perdu un de ses petits paris.
Ah, d'ailleurs, c'était c'était le joueur le plus talentueux qu'ils ont vu passer à Lyon avec Karim Benzema.
Voilà,
C'était la
c'est.
déclaration. Ils ont dû le voir en Benjamin contre des types qui mettaient pas un pied devant l'autre, qui sortaient tous les yeux devant de leur mère, et ils ont dû kiffer.
Ouais. Bon, ok. Bon, bah, je pense qu'on n'a plus rien d'autre à dire pour le championnat d'Espagne. Bon, on va passer tout de suite au championnat d'Allemagne.
Attention! People locked right here. Génération Soccer. Numéro 1 sur les soccer.
Quel beau jingle.
Ça, c'est
Ah ouais, ça c'est du jingle bien vénère avec Marvolo en guest star. Comme d'habitude, hein. Ok, alors je vais vous dire je vais vous énumérer bien sûr les affiches de ce week-end en Bundesliga. On aura un Wolfsburg
Il y a deux grosses affiches.
Ouais, Wolfsburg
Il y a toujours
contre.
des grosses affiches en championnat allemand, c'est ce qui est bien.
C'est vrai, on commence à être habitué. Wolfsburg, Bayern, Leverkusen, spécial dédicace à Dizzy. Dortmund, Bayern. Hoffenheim, Bochum, Fribourg, Francfort, Mayence contre Hertha Berlin, Nuremberg, Mönchengladbach, Hambourg, Stuttgart.
Très bien, Mönchengladbach.
Mönchengladbach. Et dimanche 15h30, Werder de Brême, Hanovre, et à 17h30, Cologne contre Schalke 04. Bon, moi, bah, je pense qu'on va parler un peu de Wolfsburg, Leverkusen. Un petit Dortmund Bayern et aussi du.
Et Hambourg-Stuttgart.
Et Hambourg-Stuttgart, bien sûr, pour notre ami Roméo. Oh.
Ah, c'est quand même le premier contre une des meilleures équipes de l'année 2009.
C'est vrai. Bah, d'ailleurs, vas-y, je te laisse la parole pour nous parler un peu de ton équipe.
Bah, voilà, comme tu l'as dit, donc tu as dit les matchs et il y a donc vraiment deux gros chocs. Hein. Wolfsburg qui reçoit Leverkusen et Hambourg qui reçoit Stuttgart.
Ouais.
Oui, j'aurais pu dire Hambourg aussi. Mais donc oui, donc Hambourg qui est vraiment impressionnant ce début de saison, ils sont premiers à égalité de points avec
Leverkusen. C'est pas la première fois, hein. Il y a 2 ans il était déjà comme
oui.
ça quand le Bayern dominait également tout avec Ribéry qui était dans sa forme éclatante et puis avec aussi Tony qui marquait pas mal de buts, ils étaient déjà présents et c'est pas forcément une surprise parce que ça fait déjà 3-4 ans qu'ils sont très réguliers en championnat, qu'ils jouent les premières places. Vas-y, continue.
Oui, et on l'avait annoncé hein, d'ailleurs sur Génération Soccer, bah, que bah il faudra suivre. Oui, c'est clair. Voilà, il faudra compter avec Hambourg cette année, je pense. Et donc voilà. Et donc t'as bien dit les autres matchs. Il y a aussi le choc qu'il faudra pas rater. Hein, le FC Nuremberg qui reçoit le Bayern, le Borussia Mönchengladbach. Voilà, ça l'aide. Donc et au niveau de la Bundesliga, sinon il se passe pas grand chose, il s'est pas passé grand chose durant cette trêve de 2 semaines,
ouais.
Si je me trompe pas. Donc, comment?
Bah, l'Allemagne gagne ses matchs, ouais, c'est tout.
Voilà, il y a aussi bien sûr Kuzmanovic de la Fiora qui a signé à Stuttgart le dernier jour.
La Fiora? Attends,
La Viola.
Je ne fais
pas passer pour un dyslexique, merci. Hein. Il y a donc José Paulo Guerrero qui est resté sur un doublé contre Rostock lors du dernier match, donc qui s'est blessé au ligament.
Aïe.
Voilà, bah oui, tu peux dire aïe, je pense qu'il a dû
Exactement.
Avoir mal. Et il sera blessé pendant plusieurs mois. C'était lors du match avec le Pérou contre le Venezuela. D'ailleurs, le Venezuela avait gagné 3-1. Et sinon, bah, Naldo a rempilé au Werder jusqu'en 2013. Et Ribéry et Klose ne joueront pas ce week-end.
Son remplaçant.
Voilà. Avec Ribéry, ça fait combien de temps qu'on attend qu'il débute un match?
Ça fait 3 semaines.
Depuis le début de championnat. Non, mais bon, vous juste revenir un peu sur le match de Wolfsburg qui est dans une année un peu qui peut être décisive et très intéressante pour lui, avec notamment la Ligue des Champions qui arrive aussi pour lui. Jouer avec bon, ils ont Manchester dans le groupe, donc c'est pas rien. Donc ça peut vraiment être une saison qui peut les valoriser aux yeux de toute l'Europe. Et ça va être à pas rater. Ils ont déjà fait un très bon début de saison en championnat d'Allemagne avec ils ont recruté notamment Bafemi Martins qui marche plutôt bien. Bon, très par contre, il y a l'autre Karim Ziani là.
Ouais, elle est nulle.
On va passer. Non mais attends.
C'est mauvais.
Ziani, il a fait 4 matchs titulaires, et 4 matchs il était mauvais.
Et en plus, il a trouvé le moyen de se battre avec Dzeko.
Voilà, c'est comme 1m60 contre 2m, c'est soit il est con,
il est téméraire, quoi.
il a fait non, bon, je vais m'arrêter là, mais
ouais. C'est un récidiviste.
Ah non, ouais.
Bref, à Wolfsburg, à Wolfsburg, aujourd'hui, j'ai pu voir une information sur Wolfsburg, Kallenberg.
Et oui, Franed est en direct de Wolfsburg en ce moment.
Non, mais redevenons un peu sérieux. Pour Wolfsburg, j'ai pu voir une information. Je sais pas ce que vous en pensez. Les dirigeants de Wolfsburg ont décidé de pas inscrire Kallenberg.
Il est blessé.
Oui, mais je suis désolé, le mec il peut se rétablir et jouer les derniers matchs, je ne sais pas moi.
En même temps, il a pas encore
joué. C'est pas pour deux, c'est pas forcément pour deux matchs que la donne va être changée. Hein. C'est pas, à mon avis, il n'y a pas de quoi vraiment s'attarder dessus, surtout qu'ils ont des bons joueurs. C'est pas un joueur comme Kallenberg qui était très bon quand même, qui était très bon, mais qui vient quand même de la Auxerre. On va lancer une polémique
C'était l'un des meilleurs joueurs de d'Auxerre l'année dernière.
Ouais, enfin.
Tu veux qu'on rappelle le niveau d'Auxerre?
Ouais, bien sûr.
Non, mais bon, voilà, quoi. C'était le seul joueur qui arrivait à toucher un ballon, quoi.
Ouais, c'est super.
Oui, c'est un des seuls.
Voilà, quoi, mais bon. Qu'est-ce que j'ai.
Non, mais Auxerre l'année passée.
Non, mais ouais. Il est venu en tant que doublure à Wolfsburg, si je ne m'abuse.
Oui.
Non, ça dépend, parce qu'il peut très vite, avoir une place titulaire aussi. Hein. C'est pas.
Oui, c'est vrai qu'il.
C'est la Ziani, par exemple.
Oui, voilà, exactement, relayeur droit.
C'est justement ça qu'on attend de lui. Hein.
Oui. Parce qu'en 10, il y a Misimovic qui est indéboulonnable.
Ah oui, bah ça c'est sûr que. Oui.
Très, très gros début de saison d'ailleurs.
Ouais. Ah oui, quel jeu.
Encore, pour l'entrée de saison.
Oui, ah oui, déjà l'année dernière, il était exceptionnel.
Ouais, très
bien parti.
Ouais.
Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du bon début de saison de Leverkusen? En plus, Kessling est meilleur buteur avec Guerrero. Est-ce que ça peut être l'année de Leverkusen, du grand retour du grand Leverkusen?
C'est pas aujourd'hui qu'on le dira. On peut pas se prononcer avec le Bayer Leverkusen. Chaque année, t'as cette putain de période où il déchire tout, il gagne des matchs improbables, il y a Kissling qui est très en forme, ils ont aussi cette perle d'attaquant qui est Render Diok. Franchement, vraiment, si on rigolait, il est franchement très très bon.
C'est sûr que Almas, il va avoir du mal à revenir.
Il a déjà marqué 3 buts en 4 journées, ça donne un peu le niveau du gamin qui a encore marqué.
Oui, mais Stéphane Kessling en a marqué 4.
Non, mais. tu comptes pas un gars qui.
Non, c'était ironique.
On va pas faire de comparaison entre Kessling et Dardioc.
Ah, c'est sûr.
Non, mais le Bayern Leverkusen, c'est pas mal, on va pas pouvoir dire. Hein, c'est. Tu vas voir, ils vont peut-être avoir leur bonne période de 5, 6, voire 7, 8 journées. Et ouais. Après, ça va peut-être redescendre. Je l'espère pas, hein, parce qu'ils ont quand même une belle équipe, ça joue bien. Mm. Mais c'est, Mais finalement, on sait jamais à quoi s'attendre avec cette équipe. Et tu peux après très vite retomber dans leur travers habituel qui sont 7 matchs sans victoire avec des défaites contre les équipes de très bas de tableau. Et puis finalement se retrouver 8e à la 8 ou 9e à la fin de la saison alors qu'ils ont été pendant les deux tiers de la saison entre la première et la 5e place. Donc franchement, à mon avis, c'est trop imprévisible pour tirer un constat déjà maintenant.
Ouais, c'est beaucoup trop tôt, quoi.
Même à la trêve, c'est trop tôt avec cette équipe. À la trêve hivernale, l'année passée, je les voyais très bien faire un bon résultat, surtout qu'ils avaient continué en début de saison, en début 2009. Et après, tout est retombé. Et puis franchement, c'est une équipe qui est trop, trop, trop inconstante. Et puis le jour où justement elle retrouvera cette régularité qui leur fait très très souvent défaut, alors on pourra les qualifier de très bonne équipe, voire même du retour du Leverkusen des années 2002.
Ouais, ok. Pierrot, tu veux nous parler un peu de Hoffenheim un peu si tu veux, ou t'as pas trop envie?
Ah bah si.
Non, parce que vous jouez contre Bochum, alors bon...
Bah justement, c'est l'occasion de prouver qu'ils ont un peu progressé. Ils vont jouer à domicile, donc 3 points obligatoires. Le début de saison, il est irrégulier, 5 ouais. points en 4 journées. Bon, c'est vrai qu'ils ont joué ils ont battu Hanovre, mais après ils ont joué avec des bonnes équipes. Bon, un nul face au Bayern à domicile, ça peut passer. Mais bon, il y a la défaite à Leverkusen, mais si Hoffenheim a vraiment les ambitions qu'elle s'est données, c'est-à-dire se qualifier pour l'Europa League, à l'extérieur, faut pouvoir ramener des points et Leverkusen, par exemple, c'était un rival potentiel et perdre là-bas. Hoffenheim va peut-être encore passer une saison dans le haut de tableau, mais pas dans les places européennes. Mais faut leur laisser le temps. Par exemple, Beck, je trouve qu'il est très fatigué par rapport à la saison dernière, qu'il a joué l'Euro Espoir, il a pas eu beaucoup de vacances.
Ouais.
Déjà, les 4 de l'an dernier sont pas encore très en forme. À part Tim Wildebrand, hein, faut le souligner. Mais par exemple, Dembaba et puis Ibisevic, c'est pas terrible, terrible en ce début de saison.
Ouais, ok. Ok, d'accord.
Dembaba.
Vas-y, vas-y.
Qui était tout proche de signer à Stuttgart, mais ça s'est pas fait.
Ah non, mais de toute façon.
Maintenant qu'il est nul, il y retournera pas. Hein.
Voilà, ça, c'est de toute façon, Dembaba oui. était convoité par beaucoup de clubs. Hein. Pas que par Stuttgart, Paris.
Non, mais c'était quasiment fait. C'est juste qu'il y a eu un problème à la visite médicale.
Ah, d'accord. Ok.
Ah bon, il a un problème de mâchoire.
Bon, en même temps, Sissoko, il a des problèmes de dents. Hein, donc...
Ouais.
Oui.
Ah ouais.
Non, mais justement, je pense que c'est
niveau.
Pour ça.
Ou des niveaux.
Ok, on va parler un peu du dernier choc de cette journée de Bundesliga, Dortmund-Bayern.
Non, c'est un choc que du nom, parce que Dortmund, c'est pas vraiment pas bon hein, au début de saison. Bayern fait pas beaucoup mieux.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
C'est un choc, entre guillemets, hein, franchement.
C'est un choc de ventre mou, parce que les deux ont 5 points.
Non, non, j'irai pas jusqu'à dire de là, mais c'est un choc. Un choc de l'époque, si tu veux. C'est,
ouais, c'est vrai.
Même si,
ouais.
même si le Bayern, évidemment, ça reste la grosse équipe allemande, et avec c'est le gros club allemand.
Mmh.
Et Dortmund, un club qui ne cesse de baisser depuis maintenant une dizaine d'années.
Ouais.
Donc c'est non, mais c'est ce qu'on veut qualifier de choc. Et puis au final, tu te retrouves avec un 4-0 ou un 4-1 dans les dents d'une équipe.
Mmh.
Non, non, mais je sais pas, c'est forcément intéressant à vraiment suivre, parce que le Bayern, quand tu vois qu'ils font un très très mauvais résultat contre Mainz il y a ça 3 semaines.
Ouais, c'est vrai, ils ont perdu.
Ouais, c'est
mais bon, avec l'arrivée
pas le Bayern.
Mais bon, avec l'arrivée de Robben, je pense que beaucoup de choses peuvent changer.
Ouais, ouais, c'est sûr, parce que bon, quand tu vois Robin Ribéry,
ça
a donné contre Wolfsburg.
Ouais.
Il y a vraiment de la vitesse de partir en contre qui est extrêmement impressionnante. Il marque un but contre Wolfsburg.
Ouais.
Ça commence par un coup franc de Mitrovic dans le coin dans le coin de gauche de la partie de terrain du Bayern.
Ouais.
Et le ballon est repoussé, ils partent à 2 à 150 à l'heure et ils vont marquer leur but. Mais bon, je sais pas ce qui. Je pense que Robben sera titulaire, Ribéry ne le sera pas. J'ai peur que l'association Robben. Enfin, je vois pas avec qui Robben il peut faire une association si ce n'est Ribéry.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, comme tu l'as dit, on a tous été impressionnés par la rapide adaptation de Robben. Et surtout la bonne entente.
Pas oublier que Robben, c'est monsieur j'ai les jambes en verre. Hein,
ouais, c'est vrai. Aussi, ouais.
Même si le joueur, franchement, je l'ai toujours apprécié. C'est un joueur qui est très intéressant, qui sait faire de très très bonnes choses avec un ballon. Avec il m'a toujours plus impressionné avec les Pays-Bas qu'en club, que ce soit avec Chelsea ou le Real. Même si l'année passée avec le Real, c'était
l'un des
avec
meilleurs joueurs.
Je pense le meilleur.
Ah ouais, ouais. Ah ouais, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein.
Mais s'il parvient à trouver cette régularité qui peut être.
Il faut pas qu'il se blesse, quoi, comme tu l'as souligné.
S'il se blesse un peu, ça pourrait marcher. Bah, bon, juste pour faire un petit aparté, là, à mon avis, le gars il vient en France, il joue pas toute la saison. Hein.
C'est sûr.
Déjà quand tu vois Lucho Gonzalez qui arrive et qui se pète la clavicule.
Ouais.
C'est
en match amical en plus, hein. En match amical.
Ah bah, ça dit oui. Déjà les trucs, mais. Non, mais en Bundesliga où les contacts ils sont pas forcément un peu moins rugueux,
ouais.
ça peut très bien jouer pour lui par rapport à l'Angleterre. Bon, l'Espagne c'était un peu le même genre, mais le championnat, la Bundesliga c'est plus axé sur la vivacité, la vitesse, etc. Donc ça pourrait lui convenir à merveille, surtout ouais. Dans un club comme le Bayern avec le Sangal en tant qu'entraîneur. À mon avis, ça peut très bien marcher, mais je répète, à mon avis, il faut une association avec Ribéry pour espérer quelque chose.
C'est sûr, c'est sûr. Je sais pas, toi, si Roméo, tu as pu voir quelques matchs du Bayern avec ton ancienne coqueluche Mario Gomez. Qu'est-ce que ça devient, Mario Gomez, au Bayern? Moi, je trouve personnellement, moi, je suis à la place des dirigeants du Bayern. Je ne sais pas pourquoi je prends Mario Gomez. Tu as déjà Luca Toni qui a le même profil. Je sais pas, peut-être que toi ou Valentin, vous pouvez m'en dire plus.
Il y a presque 10 ans d'écart.
Ouais, oui. Mais c'est le même. Je sais pas, c'est le même profil, quoi.
Ouais, je sais pas. Luca Toni, c'est un gars qui baisse pas mal ces derniers temps. Tu le regardes à la Coupe des Confédérations, même si c'est vrai que l'équipe d'Italie était loin d'être bonne. Il est inexistant. Je sais pas, franchement, Luca Toni, c'est un peu l'interrogation totale. Si, et puis de toute surtout... façon, s'il joue pas pendant 6 mois au Bayern, mais il a dit il se casse. Donc c'est
ouais,
ça,
ouais, c'est
ça,
ce qu'il a dit.
Ouais. Déjà le truc. Maintenant, ouais, c'est un profil qui se ressemble assez. Peut-être que Toni, il a plus un profil qui est voué à terre. Il peut peut-être le faire un peu mieux que Mario Gomez, et encore, ça se ressemble pas mal. Et forcément, à mon avis, Gomez, vu sa jeunesse et déjà son début de saison qui est loin d'être mauvais, c'est peut-être un des meilleurs du côté du Bayern. Ça peut jouer en sa faveur. Mais faut pas oublier qu'il y a un gars comme Klose, qu'il y a un gars comme Olic, qui sont également là.
Ouais.
Ouais, pour Toni, ça semble la fin Bayern. Et c'est ouais. Dommage parce qu'il a fait deux, en tout cas une première saison très très bonne,
ouais.
Une deuxième loin d'être mauvaise.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, mais bon, je pense qu'il va retourner en Italie d'ici.
Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, j'ai le même sentiment que toi, ouais. Et aussi, l'un des gros points faibles de cette équipe du Bayern, et après, je pense qu'on va en terminer là pour le football allemand, c'est le poste de gardien de but. Raising ne rassure pas, il faut dire les choses comme elles sont.
C'est pas si joué l'autre jour.
Pardon ?
Bah oui, Rensing est déjà au placard.
Ah bon ?
Ah, mais il s'est fait vite calmer par Oliver Kahn, hein, qui est l'autre.
Ouais, c'est ce que j'ai pu voir dans la presse.
Racing, il a pas le niveau, hein, faut y trouver un autre gardien. Maintenant, faut
faire mais même Boot, hein, même Boot ne va pas faire long feu, quoi. Il faut vraiment trouver.
Oh, c'est pas sûr, parce qu'il a l'expérience.
Ah, il a l'expérience, mais c'est.
Ouais, mais bon, l'expérience, pas... je veux bien, Pierrot, mais bon, hein, quand t'as plus le niveau, t'as plus le niveau, quoi.
Et puis, ça, voilà, il était quoi? Il était doublure à Benfica, non?
Oui.
Mais...
C'est à l'époque où Kim était bon aussi.
Ah ouais,
maintenant, non, il peut revenir.
Hein. Mais ça, ouais, je sais pas. Pour moi, que ce soit les deux, c'est pas niveau Bayern, un pote.
Ça, c'est clair.
Mais dans n'importe quel, peut-être un autre club allemand, qui soit hors Bayern, Hambourg, Wolfsburg et peut-être aussi Schalke non faire puisque il y a Neuer. Mais
Puis Offenheim aussi.
Ouais, souvent oui, c'est le même genre boulette quand il faut la faire et quand il faut pas la faire ils la font mais. Non. Mais ouais, je sais pas. Non, mais s'il faudrait un gardien. Bon, on parle beaucoup de Neuer de Schalke.
Ouais.
Qui à mon avis ce sera lui qui viendra, même si en Allemagne t'as de très bons gardiens, t'as le gardien bah, justement de Mönchengladbach, le Belge qui est Bali, je crois que c'est.
Oui, et qui pour l'instant ne joue pas.
Oui, mais il faudrait non, plus un gardien.
Il était pas mal. Bah sinon tu sais
t'as Hildebrand,
t'as Ben Aglio qui a Wolfsburg.
Ben Aglio, oui.
Il en est mauvais, franchement. L'autre jour, bah, avec l'équipe de Suisse contre la Grèce, l'autre jour, heureusement qu'il est là, il sauve l'action qu'il faut sauver. Il y a en août contre l'Italie, il fait un match exceptionnel. Franchement, je pense qu'on peut on peut avoir une petite confiance en lui, même si moi je pense qu'à Wolfsburg il peut très vite devenir un très grand gardien, surtout s'il y a la Ligue des Champions avec lui à Manchester, etc. Ça peut être très intéressant pour lui. Même si il faut qu'il finisse seulement la saison avec Wolfsburg et après on verra les possibilités qu'il a. Peut-être le Bayern, peut-être un autre pays. Et sinon, je sais pas. Ouais, sinon, c'est Neuer normalement qui doit venir. On en reparle beaucoup.
Ça, on parle aussi de Hakim Feyyeth. Hein.
Ouais, mal, mais lui, ça fait longtemps qu'on en parle. On en a parlé aussi pas mal de
qui viendrait à la
Sébastien
fin
Frey. De Sébastien Frey. Mais bon, Frey, il va jamais partir. Hein. Il va.
Frère, j'aurais été pour s'il serait venu il y a 2-3 ans.
Ouais, mais non, mais on parle aussi. On a parlé de tellement de gardiens au Bayern ouais. de ces dernières ouais. années. Il y a même eu Mandanda qui est passé. Il y a eu des rumeurs. Ouais, qui. T'as des rumeurs les plus folles. Et puis finalement, je me demande s'il faudrait pas plutôt miser sur un gardien allemand et puis point à la ligne.
Ok, vas-y, Roméo.
Oui, et je voulais dire que bah Boot normalement il devrait bien passer l'hiver.
Bah pourquoi?
Avec ses boots.
Oh putain, juste.
Écoute, Roméo, je veux bien que tu connaisses rien au football étranger. Mais non.
T'as pas le droit de dire ça.
Il y a un moment où je sais pas, t'as. Ouais.
Bon allez. Football, on va tout de suite en Italie. Merci Roméo pour cette.
Génération Soccer. Keep it locked on Radio Generations.
Après cette blague pourrie de Roméo, on est en Italie maintenant en Serie A. Troisième journée de Serie A samedi. Livorno-Milan AC. Et Lazio Juventus, dimanche Sienne AS Roma, Palerme Bari, Atalanta Bergame, Sampdoria de Gênes, Inter de Milan Parme, Fiorentina Cagliari, Bologne Chievo Vérone, Udinese Catane et Genoa Naples. Bon, bah, on va parler bien sûr des clubs en lice de la Ligue des Champions. On va commencer tout de suite par Livorno Milan AC. Je vais tout de suite donner la parole à Valentin et à Roméo pour nous dire leurs sentiments sur. Une fois sur l'équipe en Serie A, une fois sur l'équipe qui va disputer Marseille en Ligue des Champions. Vas-y, Valentin.
Non, bah le Milan en ce moment, c'est loin d'être flamboyant. On a vu dans le derby, c'était.
Ouais.
C'est pas bon. T'as Leonardo qui fait des choix qui sont assez incertains. T'as, bon, là, j'ai répété plein de fois l'affaire Ronaldinho qui devrait encore être titulaire demain. Il y a Borriello qui a connu sa blessure mensuelle hier.
Ouais, comme d'hab. Lui, c'est vraiment un homme de verre, lui. Hein. Ah, mais lui, il est en cristal, hein. Lui, il est en.
Il a, depuis qu'il est au Milan, il a dû, je crois qu'il a eu genre 5 blessures.
Et c'est pas possible.
Mais, ouais,
c'est pas possible. Bah,
c'est. Non, mais moi, je l'aime bien, joueur, mais bon, voilà.
Ah, moi aussi, mais bon.
L'année passée, il avait eu des débuts un peu prometteurs, mais ouais. Mais maintenant, il y a Huntelaar, ouais, je sais pas ce qu'il peut donner non plus.
Non, je pense que si on le laisse le temps, il peut devenir un très très bon attaquant.
Au Milan, c'est dur de laisser le temps.
Bah ouais, surtout vu le début de saison que Milan est en train de faire.
Maintenant, on va relativiser. Demain, c'est Livorno.
Ouais, c'est Livorno. Ouais.
c'est loin d'être l'élite du foot italien. C'est une équipe qui est premier en Serie A, qui a deux trois très bons joueurs comme Lucarelli devant. Ouais. Bon, ils ont perdu Diamanti qui est parti du côté de West Ham, mais c'était qui était un peu leur fouet classe, et comme on dit en Italie, le joueur classe pour la traduction littérale. Mais je sais pas, c'est de toute façon le Milan doit impérativement gagner contre
Livorno. Ouais, pour se rassurer pour le match de Marseille.
Et contre Marseille, c'est pas forcément dit qu'il va pouvoir, ça va pouvoir être beaucoup mieux. Maintenant, j'attends de voir ce que ça peut donner déjà demain.
Ouais, voilà, déjà demain, ouais, c'est ça.
Déjà, j'ai envie de voir ce que Kuntelaar peut donner sur un match entier, parce que jusqu'à maintenant, on l'a vu 20 minutes contre l'Inter l'autre jour dans le derby. Et bon, je crois qu'on l'a vu aussi en match amical, mais c'était loin d'être flamboyant. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment à voir. Et à côté de lui, il aura Pato qui, lui, il a toujours rien à lui reprocher. Hein.
C'est
l'un des seuls, ouais. Mais limite, quand je le vois avec le Milan en ce moment, j'ai limite pitié pour lui, parce que quand je vois ce qu'il y en a qui peuvent faire. Maintenant, si l'autre Pirlo, il veut avoir un niveau comme il a pu l'avoir avec l'Italie l'autre jour contre la Bulgarie, moi, je signe tout de suite. Flamini, s'il peut enchaîner, je signe tout de suite aussi. J'ai envie du retour d'Ambrosini, mais j'espère que ça peut venir déjà cette semaine. On verra ce que ça donne. Mais ce que j'attends surtout, c'est qu'il lance le petit Ignacio Abate, qui était en copropriété dans divers clubs depuis maintenant 3-4 ans.
Et j'ai pu entendre parler de lui, ouais. Très bon joueur.
Bah, il a fait l'Euro Espoir, c'était avec l'Italie, qu'il a été loin d'être mauvais. Et puis lui, si tu veux, c'est un vrai ailier, et c'est peut-être un peu ce qui nous manque, surtout quand on a des latéraux qui manquent et qui montent vraiment très très peu. Donc bon, ouais, j'espère qu'on va pouvoir voir quelque chose.
C'est, ouais, mais bon, je pense que si on envoie ce jeune joueur déjà dans la galère que c'est mis le Milan AC, ça risque de griller un peu le joueur. Je pense que pour lancer un joueur, il faut que l'équipe soit déjà bien, aussi bien psychologiquement qu'au niveau même comptable, au niveau du championnat. Voilà, tu peux pas compter sur un joueur qui vient d'arriver, qui n'a fait aucun match de championnat, enfin peut-être une rentrée ou deux. Moi, je pense qu'il faut plus privilégier l'expérience d'un Seedorf, d'un Ambrosini, d'un Flamini, d'un Pirlo, d'un Ronaldinho, Pato et Huntelaar par exemple. Et Abate, si le score est favorable pour le Milan demain contre Livourne, ce serait bien de le lancer à ce moment-là, mais pas avant. Moi, je trouve qu'on pourrait trop le griller trop vite, quoi.
Dans une équipe où le Milan on est aujourd'hui,
ouais.
Je mets le Milan, mais je mets Abate, mais tout de suite. On peut pas supporter encore longtemps qu'on joue avec des joueurs de 38 piges, que non, bon, 35 ans pour être gentil. Non mais cela va falloir. Il faut, de toute façon, le Milan, je répète, ils sont dans une période de transition.
Ouais.
Et l'important, c'est de bien la gérer entre l'autre guignol de Berlusconi qui enchaîne connerie sur connerie, ouais, que ce soit dans le football ou pas. Parce que je sais pas si vous avez pu voir un peu ce qu'il a dit cette semaine, mais
vas-y, parce que nous on a
pas... Non mais c'est ça avait pas grand chose à voir avec le football, mais il y a une histoire de liberté de presse en Italie, et puis bon, Berlusconi qui donne son avis à peu près sur tout, qui arrive encore à dire que tous les Italiens aimeraient être comme lui, qu'il est le meilleur président du Conseil depuis la création. Non mais bon, c'est bon,
mais avec Berlu,
on a habitué, mais bon,
on est habitué avec lui.
On est habitué, mais franchement, ça commence.
Moi, ça me choque pas plus que ça.
Ça commence à gonfler. Maintenant, il veut vendre à Kadhafi le Milan. Je sais pas si vous avez pu voir l'histoire entre Kadhafi et la Suisse, mais Kadhafi, c'est loin d'être mon pote en ce moment.
Ouais.
Pour ceux qui ne savaient pas, Kadhafi, donc son idée lumineuse, parce qu'il y a un an et demi, son fils il maltraitait ses domestiques à Genève. Il s'est maltraité ses domestiques, et puis évidemment il s'est fait arrêter par la police genevoise, qui est un peu digne de la compétence de la police, mais évidemment ça a été sorti au grand jour, et puis l'autre compte Kadhafi il a pas aimé ça, et il y a maintenant deux états suisses en Libye qui t'as le président de la confédération qui va les chercher mais qui revient sans eux, il présente ses excuses après, non, c'est le bordel. Et puis maintenant, ils voulaient démanteler la Suisse. Donc, genre, la Romandie, ils allaient en France, le Tessin, ils allaient en Italie, et la Suisse allemande en Allemagne. C'est dire. Pour ceux qui ne connaissaient pas le monsieur, ça met un peu ça cible un peu le personnage. Mais bon, Kadhafi, si c'est pour vendre le bilan à Kadhafi, je vais avoir de la peine
Ah ouais.
à encore les suivre.
Je pense que ça va être une grosse catastrophe, moi. Moi, personnellement, je pense que ça va être une grosse catastrophe. Mais bon, bref, ce que c'est pas encore fait, c'est loin d'être fait. Moi, j'ai juste une question à poser, deux petites questions à poser à Roméo. Est-ce que toi, tu vas regarder le match demain? Et qu'est-ce que tu en penses du Milan à quelques jours du match contre Marseille, ton club préféré en France?
J'ai vu le dernier match du Milan que j'ai vu, c'était donc le derby,
L'Inter,
pardon,
ouais.
le derby milanais avec la défaite 4 à 0 contre l'Inter. Mais au début du match, le Milan paraissait assez bien et
Ouais.
quand je me disais dans ma tête, ça va quand même être dur parce que ça avait l'air bien en place et c'était loin de ce que j'ai pu entendre, notamment sur le topic de l'Olympique de Marseille. C'est pas une référence, loin de là, je sais. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit dès le début, faudra compter sur le Milan et ça sera très difficile. Mais je pense pas, je sais pas, je pourrais pas dire à l'heure actuelle, ça sera facile pour Marseille, ça
On n'a
sera
jamais dit ça,
facile
hein.
pour le Milan. Non,
On
non,
n'a
non,
jamais dit
franchement,
ça.
ah,
Ou un
j'ai
match, je
jamais
pense
dit
que c'est
ça.
largement
Dis-toi
possible,
qui
hein.
tu veux. Franchement,
Non,
ça
non,
peut
non, je
être.
veux dire que, parce que c'était quand même l'Inter en face et un vrai rouleau compresseur. L'Inter du Milan m'a vraiment impressionné. Et il faut se méfier du Milan, ça reste une très belle équipe et je pense qu'on les
Ah,
enterre un
vraiment,
peu
c'est loin
trop
d'être une
vite.
belle équipe, hein.
Comment?
En ce moment, c'est très loin d'être une belle équipe.
Ouais, c'est vrai.
C'est
Un beau
peut-être,
club,
c'est ce
c'est
qui est
un beau
sûr,
club
c'est que
qui
c'est peut-être
peut,
le meilleur
mais c'est pas
moment
une belle
pour
équipe.
les jouer.
Voilà,
C'est
exactement.
peut-être
Non, c'est
le
bien.
meilleur moment pour les jouer, mais à voir tout de même, à voir.
Même si, évidemment, faut rester prudent parce que le Milan Champions League, on
Ouais,
connaît l'histoire. Oui,
exactement.
ça peut finir cinquième dans le championnat, mais ça peut gagner la Champions League derrière.
C'est comme c'est le Liverpool italien, quoi. Ça
Ouais,
peut, c'est exactement la même chose, quoi.
non, mais ouais.
C'est-à-dire que
Sûr.
non, mais bon,
Là,
voilà, quoi,
je te dis,
mais.
ils vont arriver à Marseille, là, ils vont être surmotivés, hein, les gars. La Ligue Champion, ils l'ont pas joué l'année passée.
Ouais.
On va vite leur mettre dans la tête que ça c'est on est au Milan et puis qu'on la gagne ou pas.
T'as
On va
raison,
la gagner,
Valentin.
on la gagne ou rien. C'est
T'as raison, Valentin.
la culture Milan. Hein.
Je pense que le match contre Marseille leur fera beaucoup de bien aux Milanais. Ils vont un peu oublier la Serie A et ça va être un match complètement différent contre une équipe d'un autre pays. Mais comme on l'a dit dans cette émission, notre premier élément de réponse pour le match de la semaine prochaine, ça sera le match contre Livourne demain. Je pense que Roméo, tu vas le suivre.
Oui.
Ouais, voilà, pour voir qu'est-ce que ça vaut le Milan.
Enfin, ça dépend.
Ouais,
À
voilà.
quelle heure c'est?
Heures.
Attends,
18h. À 18h.
À 18h, 18h.
Non, il y a Marseille qui joue à 19h. Donc oui, peut-être un peu, mais oui, c'est intéressant
Ce serait
de voir
intéressant de voir.
la forme la plus proche. Enfin, voilà, je sais pas comment formuler ma phrase,
Non,
mais
mais on t'a compris, on t'a compris.
je me comprends.
On t'a compris, Roméo.
Enfin, je
Et
sais
toi,
pas vraiment.
t'as quoi comme pronostic pour. C'est quand? C'est mardi ou mercredi le match?
Mardi. C'est
Mardi.
mardi.
Et qu'est-ce que t'as comme pronostic, toi, tu
Tu
vois.
sais, je suis un grand pessimiste.
Ah bon?
Et ouais, oui.
T'as été trop déçu dans
Voilà.
ta vie.
Exact. Non, mais c'est vrai, mais avec Marseille, quand tu t'attends à une victoire, tu vois une défaite. Et quand tu t'y attends pas, t'as une victoire. Non, mais non, Marseille est très,
50-50, quoi. C'est
très
du 50-50.
imprévisible. Non, 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 je dirais pas 50-50. C'est au Vélodrome.
Ouais.
Mais tu vois, c'est la Ligue des Champions et il y a trop de facteurs qui rentrent en compte pour que je te dise un pronostic
Ah, c'est
fixe.
trop dur. Franchement, moi, je
Ouais,
ne
c'est
pourrais
voilà,
pas donner un
c'est
pronostic
très
aujourd'hui.
difficile.
Moi, je vois bien
Même
un 0.
à une finale du match, c'est ouais.
Moi, je vois un 1-0 pour Marseille, moi.
Je sais pas, c'est
Moi, je veux
parce que
juste
tu vois,
1-0.
parce que Marseille, oui, c'est ok, ça sert rentrer en Ligue des Champions. Hein. Quand ils gagnent, bon, ils ont, c'est quoi, il y a 2 ans, au Vélodrome, ils gagnent contre Beşiktaş, l'année passée, c'est leur premier match contre Marseille, contre Liverpool. Ou c'est le
Oui,
deuxième, c'est le premier,
non,
oui,
ils ont.
oui, défaite à domicile de 2-1, oui.
Ils perdent 2-1, mais c'est une performance qui est pas forcément mauvaise. Donc, force, au Vélodrome, ça peut changer, mais bon, je sais pas, franchement, Ça dépend, s'il y a trop. Déjà, le Vélodrome, c'est un stade où, avec l'OM, t'es trop. En ce moment, tu sais trop peu de trucs. Tu sais pas. Déjà, il est bon. Outre les facteurs naturels qui sont de Mistral, parce que je me souviens, il y a 2 ans, quand ça joue contre Besiktas, et t'as le corner de Nasri qui rentre sur le poteau, et puis derrière, t'as Rodriguez qui marque. Ça, c'est bon. Je sais pas s'il est prévu pour mardi, mais c'est. Ça joue forcément quand on parle de Marseille. Après, t'as un public derrière qui va être surchauffé, un bilan qui va être surmotivé parce que quand ça parle de Ligue des Champions, ça cesse de se motiver. T'as peut-être Marseille qui va trouver Lucho.
Ça aussi, ça peut changer.
Franchement, et puis ça se trouve à Milan, on va peut-être tenter un coup et puis lancer justement Abate ou n'importe qui, ou bien mettre de l'expérience avec Ambrosini qui n'a pas encore été titulaire cette saison. Donc finalement, on en fait trop rien en ce moment, et puis, mais ça va être un match, mais ça va être du régal à regarder ça.
Normalement, ça serait...
Même si c'est pas forcément, il n'y aurait pas forcément du spectacle, à mon avis,
l'intensité, ouais. Si. La pression, il y aura une pression pour les deux clubs, hein. C'est sûr.
Parce que Milan, ils ont de la peine à mettre quand même dans l'intensité dans le jeu en ce moment. Ils peuvent avoir le ballon, mais c'est une domination trop stérile. Ils font tourner le ballon. Je sais pas, donc.
Et d'ailleurs, on parlait du Vélodrome, et l'OM là est en phase de a battu son record, il me semble, de pack Europe vendu. Ouais. Et là, il y en a eu plus de 43 000 vendus. Donc cette année,
Roméo, c'est logique.
C'est au contraire de comment?
Non mais c'est normal vu les
non,
équipes.
Non, c'est que parce qu'il y a eu une nette baisse, il y a eu une nette baisse des prix cette année. Ouais. L'année dernière, c'était vraiment trop cher et on l'a vu, le stade était pas au plein, il y avait plus de il était plus garni en championnat de France. Ouais. Et là il y aura vraiment le public derrière, il y aura ça, le stade Vélodrome sera à coup sûr plein. Et on va même s'approcher, je pense, dans les jours à venir, des 50 000 packs Europe. C'est vraiment énorme. Je sais pas si.
Vu les affiches que attendent Marseille en Ligue des Champions, le Real, Milan,
et c'est. Oui,
Bah oui, mais bon, c'est. Ils font partie
de. C'est dans le pack.
Bah c'est dans le pack, voilà, t'as tout compris, Pierrot. mais c'est surtout, bien sûr, pour voir le Real Madrid et Milan AC que tout le monde a acheté les. Ces fameux packs.
Oui, non mais oui.
Et plus mais la pièce de prix que
c'est... Non quoi. Mais c'est juste pour montrer que cette année il y aura le Vélodrome vraiment qui fera le plein pour voir ces matchs.
D'accord, ok. Bon, moi je pense qu'on a assez parlé du Milan, c'est comme ça. Pour moi c'est le choc de cette journée en Serie A, ça sera Lazio de Rome Juventus. La Lazio qui est quatrième. Oui, voilà, qui est quatrième, la Juve qui est deuxième, même en nombre de points. Valentin, toi qui connais un tout petit peu la Lazio, enfin qui connais bien la Lazio, la Lazio a l'air bien cette saison, qui fait surtout un bon début.
Personnellement, ils font bien.
Ouais, parce qu'ils n'ont aucune défaite, aucun match nul.
Ouais, ils ont joué contre l'Atalanta et Kiev aussi. Hein.
Ils ont l'air bien cette saison, je trouve que. En plus,
ils font bien. Il y a eu le.
Cruz.
Ouais, bah, c'est le seul recrutement vraiment vraiment marquant qu'il y a eu FTP, hein, c'est, mais ça peut forcément beaucoup jouer parce que ouais, ça peut jouer parce que Cruz, on connaît le joueur, il sera là pour traîner dans les 5 mètres s'il faut. C'est Zarate qui était très intéressant, mais qui apparemment va pouvoir jouer demain.
Ouais.
Mais qui est raté, ça fait un an qu'on le connaît en Italie, c'est génial. Mais c'est bon, je sais pas si on était à Madrid, on va distinguer une différence, mais moi je le trouve vraiment super. Et de toute façon,
ça c'est sûr,
c'est une belle, très belle équipe qui vont. Par contre, ils auront pas Thomas Zorocki, leur capitaine qui a marqué 2 fois lors des premiers matchs,
ouais.
qui est aussi un bon buteur, qui avait marqué aussi en Super Coupe contre l'Inter. Donc c'est à souligner, même si bon, l'Azio potentiellement ils sont en dessous de la Juve qui est une très belle équipe,
ouais.
Faut le dire aussi, mais il y a peut-être un coup à jouer, c'est
bah, faut la Juve ça, bah, c'est... la Juve joue coup sur coup à 2 fois à Rome, hein. Ils ont joué l'AS Roma, ouais. Il y a 2 semaines, maintenant ils jouent encore à l'extérieur contre la Lazio. Ils ont, bon, on a vu ce que ça a donné contre l'AS Roma, victoire 3-1. Mais je pense que la Lazio est plus solide que l'AS Roma cette saison, moi je trouve.
Non, je pense que la Lazio, je l'ai dit, j'en fais ma petite surprise la Serie A cette année. Mais bon, la Lazio, c'est aussi une équipe qui est assez inconstante. Ils ont eu des très bons passages, ils ont connu pas quelques blessures, ça s'est enrayé, la machine s'est enrayée. Et puis après, ça a un peu débordé. Maintenant, cette année, ils ont un nouveau coach qui est Ballardini, qui était à Palerme l'année passée, qui se démarque surtout par son style, mais aussi par cette nouvelle génération d'entraîneurs qui arrive en Italie, avec entre lui, Allegri, deux, trois autres aussi qui sont intéressants. Zenga aussi qui a pris la place de Ballardini à Palerme. Et ils ont mis un peu les moyens, ils ont mis quand même 20 millions pour. Il me semble que c'est 20 millions pour acheter définitivement de Zarate. Ils veulent se mettre les moyens, c'est pas forcément con. Maintenant, il faut savoir aussi que la Lazio, il y a des petits problèmes internes, notamment avec Ledesma et Pandev, qui sont tous deux au club, mais qui s'entraînent, je me demande s'ils n'entraînent pas avec la Primavera ou. En tout cas, ils ne s'entraînent pas avec l'équipe première parce que les deux voulaient partir. Ils n'ont finalement pas trouvé d'accord avec des clubs. Maintenant, ils veulent se faire entraîner. La Lazio ne veut pas. Ils n'ont pas été mis sur la liste pour la Coupe de l'UEFA. C'est un peu tendu avec eux. Mais apparemment, ça influe pas trop sur le groupe. Ils ont des bons joueurs. Ça devrait marcher. Ils ont un super gardien qui est Muslera. Ils ont deux très bons latéraux entre Kolarov et Lichtsteiner. Donc il y a peut-être la défense centrale qui est des fois un peu à revoir, mais si ça se confirme, si ça s'installe vraiment avec notamment le français Diakité et puis peut-être Stivilia, ça peut aussi devenir intéressant. Peut-être le milieu c'est un peu en dessous, mais c'est pas forcément très intéressant quand t'as un Zarate qui travaille énormément offensivement. Je dis pas qu'ils vont battre la Juve demain.
C'est sûr. Mais c'est un bon test pour la Juve, ça. Ça sera un bon test.
C'est un bon test pour la Lazio aussi. Ça va être un match qui va être, à mon avis, plaisant à suivre.
Ouais.
Même si je n'explique pas une possible déroute totale de la Lazio. L'année passée, contre la Lazio, ils en étaient. Contre la Juve, je me demande si. En tout cas, je crois qu'ils avaient fait 1 à l'aller.
Ouais.
Et je crois que le retour, ils en prennent
4.
3
ou 4, j'ai oublié. Un gros score.
Au retour, ils se prennent un gros score. Bon, c'était fin de championnat, c'était pas forcément très préoccupant, mais la Lazio qui a gagné la Coupe d'Italie l'année passée, ça se reconstruit. Et pourquoi pas retrouver une équipe qui est digne de celle des débuts des années 2000, quand ils sont champions d'Italie, quand ils vont en Ligue des Champions et qui sont très bons et tombent dans le groupe de Marseille notamment. Ils leur mettent une belle petite branlée.
Ouais. 5-0 ou 5-1, j'ai oublié. Ouais.
Donc, okay, ça suit. Voilà, Youth, par contre, il n'y a rien à dire. Ouais. Par contre, Del Piero sera trop juste encore demain. Il n'est pas pris dans le groupe. Mais Diego aussi confirme ce qui.
De toute façon, vu l'effectif de la Juve, ouais. Del Piero.
Et attends, il y a Sissoko qui en passe de revenir, je crois, d'ici quelques semaines.
Ouais.
Même si tu as un Marquisio qui est de plus en plus génial, tu vas peut-être enfin pouvoir trouver sa place à la Juve et montrer ce qu'il sait faire, parce qu'en équipe d'Italie, l'autre jour il est titulaire et fait encore un très bon match. Il y a du potentiel. Le seul petit regret à évoquer, et puis il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi, c'est le fait de voir un gros saut venir et piquer la place à Deschelier qui est aussi un espoir. Ça fait un petit peu mal de voir ça, mais bon, c'est le fait de prendre Grosso, tu peux pas, même si Grosso a été très bon le jour avec l'Italie aussi, il marque contre la Bulgarie, mais on a la peine un peu à miser chez les jeunes dans les grands clubs italiens, et c'est un peu déplorable, quoi.
D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous avez comme pronostic pour le match de mardi contre les Girondins de Bordeaux?
J'ai peur que ça fasse mal à Bordeaux quand même. Hein. Mais bon, si ça peut commencer encore comme l'année passée, avec quand ils se prennent, je crois, 4 contre
Chelsea. Ouais.
D'entrée. J'ai peur que ça se redevienne comme ça. Surtout, j'espère quand même que.
Et en plus, ils jouent en Italie. En plus,
ouais,
j'ai pas vu, ouais.
Mais j'espère quand même que Laurent Blanc va pas jouer le frileux
ouais.
et mettre en son 4-2-3 hein, qui est pas forcément très, très
en plus
bon
le pire c'est que maintenant il a une équipe qui peut prendre le jeu à son compte, qui peut rentrer directement dans l'art. Moi je serais à sa place, comme tu as dit, moi je jouerais le coup à fond hein. Je jouerais pas la défense à fond.
À mon avis ils vont retenir les leçons l'année passée hein.
Bah ouais, parce qu'ils ont des joueurs géniaux à Bordeaux. À eux de prendre confiance, de prendre leur jeu, comme Wendel, comme Gourcuff, comme Chamac en attaque. S'ils jouent sans avoir peur, s'ils jouent leur jeu, on peut avoir une belle surprise peut-être à Turin. Mais bon, bien sûr, ça reste la Juve, ça reste une grosse, grosse équipe. J'en fais mon favori pour le championnat.
Ouais, l'Inter, il va falloir faire très, très attention. Ils prennent Schneider, ce qui fait que Stankovic.
L'Inter, on va en parler, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Valentin, on va en parler de l'Inter, t'inquiète. Je sais que moi aussi, t'inquiète pas, moi aussi, je vais en parler. Mais on va assez vite fait sur Bordeaux-Juve et après, on va passer à l'Inter. Mais ouais, comme tu as dit, hein, si Bordeaux joue sans crainte, je pense qu'ils risquent de perdre le match, mais ils perdront le match, je pense, avec la tête haute, quoi. Tandis que l'année dernière, à Chelsea, ils se mangent une belle claque. Et le pire, c'est qu'ils ont même pas joué, quoi. Ils ont déjoué leur adversaire. C'est ce qu'il faut surtout pas faire contre une grosse équipe de Ligue des Champions. Si mardi Bordeaux va dans l'intention de gagner le match, on peut avoir une petite surprise. Moi, je pense qu'on peut avoir une petite surprise. Parce que pour moi, à l'heure actuelle,
le seul truc qui pourrait faire défaut à la Juve,
ouais.
C'est qu'ils les prennent de haut. Ça peut peut-être faire mal, mais je doute qu'avec Ciro Ferrara qui va rencontrer un type comme Blanc qui sont de la même génération,
ouais,
ça se passe comme ça.
Mm-hmm. D'accord, ok. Bah, vu que tu veux parler de l'Inter, bon, on va tout de suite en parler. Il joue contre le Parme à domicile. Parme qui a fait son grand retour dans le championnat italien. Bon, bah, je pense qu'on voit il y aura une victoire, je pense, de l'Inter assez facile. Contre un promu, malgré tout, Parme reste sur une victoire et un match nul, zéro défaite. Qu'est-ce que toi tu vois pour ce match-là? Et bien sûr, on va parler un peu de Schneider, la nouvelle recrue de l'Inter.
Bah, pour ce match-là, Parme, c'est intéressant quand même. C'est peut-être une petite. Bon, et c'est pas la grosse surprise qui va aller jouer les trois en première place. Hein. Mais ça peut être une équipe qui peut jouer les troubles faits un peu avec un Palos qui devant qui marque déjà but sur but en série avec Parme. T'as Gemayli qui est arrivé du Torino en toute fin de mercato. Ça peut être un très bon liant au milieu de terrain. Il y a deux trois atouts intéressants. Il y a Guidolin à la barre. Ça peut jouer même si bon contre Inter à mon avis j'ai la peine à voir quelque chose qui fasse défaut au Nerazzurri. Mais parce que l'Inter, juste pour dire, l'Inter en ce moment, si ça joue comme contre Milan, ça va faire très mal. Et les seuls qui pourront les défier un peu sera la Juve à mon avis. Parce que juste pour expliquer un peu le truc, l'Inter, il commence la saison contre Bari. Et Bari qui est champion de Serie B, qui vient d'être promu. Mais il y a des bonnes occasions. Bari peut tout autant l'emporter que l'Inter. C'est ils ont des grosses occasions les deux, même si au final ça finit souvent partout. Mais le problème à cette époque là c'est que ça joue bon avec Milito et Eto'o qui sont devant. Milito qui je veux juste le souligner, qui est excellent le joueur, c'est vraiment un super joueur. Eto'o qui travaille bien à côté aussi, qui peut-être ne s'est pas encore totalement adapté. C'est un bon duo, hein. C'est un très bon
mais
duo.
Mais franchement, ouais, comme tu as dit, hein, Eto'o, peut-être qu'il n'a pas encore trouvé toutes ses marques.
Non, moi, je pense qu'il n'est pas totalement dedans.
Non, mais son entente avec Diego Milito risque de faire très très mal hein, toute cette saison. Moi, quand tu vois comment les joueurs s'entendent les yeux fermés, quand tu vois le match contre le Milan AC. Ça risque de faire mal durant toute la saison et en plus s'il joue contre nous contre le Barça bien sûr en Champions League je pronostique voilà le retour d'Ibra à San Siro et le retour de Eto'o au Camp Nou Moi, je vois déjà un but de Eto'o chez nous. Hein. Comme d'habitude, il va nous la faire, hein, la spéciale Eto'o. mais surtout, c'est que voilà, l'Inter commence à vraiment, vraiment avoir un vrai style de jeu agréable à voir jouer. Surtout avec.
Plus un peu pour continuer sur l'équipe. Donc, pour expliquer, à l'époque du match contre Bali à la première journée, ça joue avec Stankovic en numéro 10.
Ouais.
Ce qui est quoi qu'on en dise, c'est loin d'être sa place, même s'il a joué quasiment un an à cette place, deux ans peut-être à cette place, parce que faute de mieux. C'est tout sauf un numéro 10. Et donc, l'arrivée de Schneider, mais ça débloque totalement le truc.
Ouais.
Parce que maintenant, Stankovic est dans un rôle plus de relayeur en numéro 8, avec à côté de lui Thiago Motta qui est aussi très très bon. Et maintenant, ça peut être soit Zanetti, soit Cambia, soit quand il reviendra, soit même Muntari. C'est vraiment intéressant au milieu. Et bah, Stankovic, en ce poste de relayeur, il a une vision de jeu qui est peut-être décuplée, parce que vu son poste plus reculé, t'as un Schneider devant qui est en numéro 10, en électron libre, qui joue à l'instinct. Vraiment, c'est ça part de, on passe de tous les côtés, dans frappe dès qu'il en a l'occasion. Sur Schneider, on connaît, on a vu que ce soit avec la séquence des Pays-Bas, notamment à l'Euro 2008, contre la France entre autres. On l'a vu aussi avec le Real au début de son passage au Real. C'est un très très bon joueur. Et l'Inter, c'est ce qui a débloqué le truc à mon avis, c'était l'arrivée de Schneider. Au début, je les mettais pas forcément grands rivaux de la Juve. Ouais. Mais maintenant, pour moi, c'est entre les deux et ça va être très 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 dur à les partager. Et ça va jouer sur les confrontations.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Le championnat va se jouer entre ces deux grosses équipes. Et comme tu l'as dit, l'arrivée de Schneider a été très très importante pour l'Inter. Et maintenant, vu en plus la rapide adaptation, comme à l'image de son compatriote Robben au Bayern, ben lui aussi s'est vite intégré au jeu de l'Inter et au jeu italien, enfin du style italien. Voilà quoi. Maintenant, l'Inter, moi j'en fais un des grands favoris. Et en plus, comme je l'ai dit avant. L'Inter, franchement, fait plaisir à voir jouer.
Ah ouais. C'est la première fois que ça arrive depuis un bail. Hein.
Exactement. Et maintenant, tout le monde commence à revoir l'Inter avec une part de sympathie. Parce qu'avant, maintenant, les gens vont regarder l'Inter, mais sans vraiment être emballés. Maintenant, les gens commencent.
Je ne sais pas jusqu'à là pour moi, mais franchement, je les trouve très, 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 très bons. Même ouais. Si tout le monde sait que je suis de loin pas un fan de l'Inter,
bah, bien sûr.
Vu contre le Milan, ça m'a limite plu parce que ça
exactement.
Jouait. Alors que ouais. Pendant longtemps, la réputation de l'Inter, c'est que tu laisses faire jouer le jeu et tu pars en compte, tu mets ton but
voilà.
Et, qui est très à l'arrache. Et ça, c'était loin d'être agréable à regarder.
Ok. Et qu'est-ce que tu vois en Ligue des Champions, Barça-Inter?
Ah, ça va être loin. Hein. C'est le fait que l'Inter et une journée de plus de championnat derrière Real, ça peut les avantager hein, quand même. Ça peut jouer en leur faveur, même si un Barça en forme, ça se ouais. prend, ça bat n'importe qui. Hein, mais à mon avis, c'est pas forcément ce match qui va être le plus intéressant à voir, le plus décisif. Mais ce sera celui de retour au Camp Nou qui sera vraiment un vrai match de Champions League entre deux grosses équipes. Et ce sera celui-là qu'il faudra se passer parce que là, on est quand même, il y a une équipe qui aura deux journées derrière elle, une autre qui en aura trois. On peut pas tirer encore des conclusions sur un match de Ligue des Champions. Et ça, c'est limite un peu décevant de voir que ça commence direct par un Inter-Barça.
Ouais, c'est vrai. J'aurais préféré que ça vienne un peu moins vite, mais bon, le calendrier est fait comme ça. On va pas cracher dessus non plus. Ok, la Fiorentina va jouer contre Cagliari, le dernier club en lice en Ligue des Champions. La Fiorentina qui a failli ne pas participer à cette Ligue des Champions, grâce à un but de Jovetic en contrôle Sporting et qui envoie tout de suite la Viola en Ligue des Champions et dans le groupe de Lyon. D'ailleurs, Lyon va recevoir la Fiorentina pour la première journée. Tu peux nous en dire quelques petits mots, Valentin?
C'est pas bon. Cette année,
il n'y a pas
eu de recrutement.
En plus, ils ont
le seul recrutement qu'il y a eu, c'est Enfin non, les seuls recrutements qu'il y a eu, il y en a quand même deux qui sont plus ou moins intéressants. T'as Cristiano Zanetti qui vient de la Juve aussi, qui a été un très très bon joueur, qui a connu une petite saison, qui a une saison très moins bien depuis l'année passée avec ses blessures, mais qui reste ça reste un très bon joueur. Et t'as Marc Cunha aussi qui vient de la Juve, qui est un bon joueur de Serie A, je pense, qui est peut-être fait pour la Fiorentina. Mais il n'y a pas eu, je l'ai déjà dit dans des émissions précédemment, mais je l'ai dit qu'il manquait ce vrai rôle, cette vraie individualité offensive qui pourrait vraiment mettre le feu dans les défenses. Parce que Moutou avec 17 millions sur la conscience, ouais, c'est très très différent que le vrai Moutou qu'on a pu connaître. En plus, il y a le petit souci de blessure, il nous prend le match. Et surtout si j'ai vu que Lisandro il est mis le repos par Puel et qu'il va pour justement le match contre la Fiorentina. Si en forme, mon dieu pour la Fiorentina, surtout que la défense est moyenne quand même. Gamberini ça va, mais c'est trop rugueux. Et à côté de lui, on sait pas vraiment que c'est le titulaire. Ça joue entre Daileli, ça joue entre Nathalie, c'est très très incertain. À mon avis, c'est pas aujourd'hui qu'on peut dire de la Fiorentina qu'elle va faire la même saison que l'année passée.
Ouais, moi aussi je suis d'accord avec toi. La Fiorentina, ça sent pas bon. Malgré tout, ils sont dans les hauteurs du championnat de Serie A, mais bon.
Ah, ils ont fait reste... hauteur, ils ont fait match contre Bologne et ils ont fait. Je me souviens parce qu'ils ont fait la deuxième journée, mais c'est pas. Ils n'ont pas joué les grosses équipes.
Ouais. Ah ouais, je crois que ça va être dur cette saison pour la Fiorentina.
Disons, je les vois pas relégués, hein, mais évidemment. Mais
oui, bien sûr.
Mais... dans une place de milieu de tableau, voire 6-7e, qui sera pas forcément très très bon pour eux.
D'accord, ok. Bon, ben, on va fermer cette page italienne et aller en Angleterre très rapidement, dire quelques mots, et après on finira avec le championnat portugais.
Génération Soccer, c'est notre passion.
Ok, d'accord. Bon, on va voir ce que la première chip nous réserve. Alors, on va voir ça tout de suite. Manchester City.
Ah, bah, il y a des gros chocs. Hein.
Ah, ouais, là, il y a des bons petits chocs, des bons petits matchs.
Sunderland City.
Voilà, par exemple. Alors, on va commencer. Portsmouth, Bolton, Sunderland, Hull City, Stoke City, Chelsea, Liverpool, Burnley, Blackburn, Wolverhampton, Manchester City, Arsenal, Wigan, West Ham, Tottenham, Manchester United, Birmingham, Aston Villa, ça c'est dimanche, et Fulham, Everton. Bon, on va tout de suite parler de Manchester City, Arsenal. Le retour, enfin, les retours de Kolo Touré et de Adebayor contre leur ancien club, Arsenal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs. Surtout qu'on a pu aussi voir qu'Archavin était blessé pour ce match, qui a été blessé pour le match contre Manchester United. D'ailleurs, Arsenal enchaîne les deux Manchester, coup sur coup aussi. Ils ont perdu sur le fil contre Manchester. Là, ils jouent à l'extérieur contre City. Et surtout qu'on a pu aussi voir que Carlos Tevez était peut-être forfait pour ce match.
Ouais, c'est Tevez forfait et Robinho peut-être.
D'accord. Bah vas-y Pierrot, si tu peux nous dire quelques mots sur ce match.
Bah Manchester City, c'est un peu la surprise cette année, puisque enfin il y a eu des gros achats, c'est ouais, sûr. Ouais. Hein, mais c'est vrai que l'année dernière on avait été beaucoup déçus. On pensait que Manchester City était capable de mieux. Cette année, ça a l'air de pas mal marcher. Ils sont bien partis. Moi, je pense que ça va être équilibré. Je pense que Manchester City est parti pour être dans vraiment pour être qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Mmh. Là, ils vont être à domicile, donc je pense vraiment que ça va être difficile pour Arsenal de ramener les 3 points. Ouais, après, que avec les absents en attaque, je pense que on peut légitimement penser qu'il y aura match nul.
D'accord, ok. Et toi, Valentin, est-ce que tu as un petit sentiment sur ce match-là?
J'ai peur que Manchester City gagne, franchement.
Moi aussi, ouais.
Je vois Arsenal, c'est loin de m'impressionner. Bon, t'as Archavine qui est vraiment bon, hein, ça c'est sûr.
Ah, mais Archavine sera absent.
Ouais, c'est justement c'est ça
C'est ça, c'est ça le problème.
Qui met un peu le doute et c'est bon. Même...
Va falloir que Fabregas soit en grande grande forme alors.
Ah c'est bah s'il n'est pas en grande forme ça marchera très très mal. Hein. C'est
ouais.
c'est vraiment ce liant dans cette équipe et s'il n'est pas bon, c'est toute l'équipe qui est pas bonne. Ouais. Maintenant je sais pas trop comment ils vont jouer. J'ai pas trop suivi les matchs d'Arsenal. Si ce n'est celui contre le retour contre le Celtic en Champions League, mais c'est pas forcément bon, c'est pas forcément mauvais non plus.
Ouais, c'est ouais.
Mais c'est bon, cela dit, je les vois mieux dans le championnat d'Angleterre que Manchester par exemple. Mais pour moi, c'est plus le Arsenal il y a ça 2, 3, 4 ans quand tu avais encore les gros cadres avec entre Henry, Vieira, etc. Et bah celui-là, en fait, le Manchester de la finale 2006 en Champions League, il a trop changé depuis et c'est trop, trop incertain en ce moment. Ça recrute des joueurs, mais ils n'ont pas forcément un talent monstre. Et voilà, je sais pas, c'est pas.
Ouais. Ouais. À part Vermaelen, enfin, vas-y, Pierrot.
Ouais, je disais justement Arsenal, on sait pas trop où veut aller Arsène Wenger. On dirait que chaque année il fait du bricolage pour rester au niveau, mais que la progression n'est plus là.
Ouais, t'as pas tort. T'as pas tort dans ce que tu dis. Et
il va falloir à un moment recruter un grand joueur pour Arsenal.
C'est vrai. Parce que.
Mais sinon, je. Par contre, Vermeulen, autant c'est pas un joueur super connu, mais je pense
très bon.
Qu'il est. Bon. Sur ce que j'en ai vu, ouais, c'était très bon. Je pense que ça, c'est une très bonne recrue.
J'attends de voir vraiment dans les matchs clés du champion, pas contre le Standard de Liège ou l'Olympiakos, hein, ce sera, je dis, plutôt à partir des huitièmes de finale, de voir ce que ça peut donner. Et après, dès lors, je dirais vraiment un premier constat. Mais faudra voir ce que ça peut donner déjà ces jours-là, ces premiers matchs du championnat, dans des gros matchs contre le Big Four. Et ouais, c'est ouais. Donc franchement, c'est pas, j'ai pas, j'ai très peu vu à l'autre des joueurs et je peux pas encore vraiment tirer un constat, mais à mon avis, c'est peut-être une recrue intéressante quand même pour Arsenal, même si je sais pas si ça remplace vraiment Kolo Touré, qui justement jouera demain dans le camp.
Dans le camp, ouais. Ok, d'accord. On va tout de suite passer au deuxième gros match. Tottenham Manchester United. Tottenham qui impressionne beaucoup de monde. 4 matchs, 4 victoires. La meilleure attaque du championnat avec Arsenal.
Et deux faux volets devant.
Et deux faux volets qui sont Jermaine Defoe.
Et Lennon,
bien sûr, qui ont joué. Et Lennon qui a joué contre la Croatie.
Quand ils ont gagné 5-1.
Voilà, 5-1. Très bon match. Assez bon. Tiens, toi qui connais un peu ces deux joueurs-là, est-ce que ça peut pas être l'année Tottenham cette saison pour jouer la Ligue des Champions, enfin?
Bah c'était jamais aussi bien parti en tout cas. Hein. Donc s'il faut une année, c'est bien celle-là. Hein. C'est de toute façon je sais pas, c'est bizarre parce que ils ont pas été forcément très clinquants dans leur mercato. On n'a pas marqué tout ça, on n'a pas souligné leur mercato de feu, on n'a pas fait des millions d'articles un peu partout. Et finalement, c'est eux qui sont en tête, qui gagnent 4 matchs de suite, etc. Et franchement, ça peut être la bonne surprise, même s'il faudra être très, très, très fort pour aller rivaliser avec les Big Four. Et c'est loin d'être fait pour Tottenham.
Mais Tottenham, demain, ça va être leur gros test. Alors, demain, domicile contre United.
Limite, demain, j'ai pas trop. Limite, demain, je mettrai une pièce sur Tottenham.
Moi
par
aussi,
contre,
ouais.
c'est sur la suite que ça m'inquiète un peu. Parce qu'avec Tottenham, ça peut dégringoler à n'importe quel moment aussi. Hein.
C'est vrai.
On connaît ce club, c'est pas un club stable. C'est tout sauf un club stable.
Mm-hmm. D'accord, ok. Bon, on va accueillir avec nous un. Un nouveau Hugo qui va qu'on va revenir un peu sur Arsenal. Vas-y Hugo, c'est à toi.
Bah déjà bonsoir à tous.
Bonsoir.
Donc pour revenir sur Arsenal, déjà Archaville, il est loin d'être indispensable en ce début de saison. Il fait vraiment un début de saison moyen, mis à part quelques coups d'éclat contre notamment Manchester.
Malheureusement ça sert ces coups d'éclat.
Oui, ça sert, mais il est loin d'être indispensable. Là, c'est plus le jeu d'Arsenal et le collectif qui est gagnant que l'individualité. Parce que, mis à part en défense centrale, il n'y a pas vraiment grand monde qui sort du lot, quoi. Voilà, et puis après, pour Manchester City, je vois pas de quoi cette équipe est emballante. Puisqu'elle marque 1-0 et c'est fini, quoi. C'est comme
Non,
Marseille,
mais
ça
c'est
peut
sûr, ils ont Adebayor dans la surface qui met sa tête
pas.
au corner.
Non! Ouais,
C'est comme
c'est
ça.
sur corner. Après, tu vois, le niveau du jeu aérien, Arsenal, cette année, c'est quand même assez solide. Avec Gallas-Germain, ça. Voilà, ça tient la route.
Bah, Manchester City, comme tu l'as dit, c'est la meilleure défense du championnat avec zéro but encaissé.
En même temps, faut voir le
Ouais,
match
mais
contre
c'est
Liverpool
une bonne attaque.
Pardon?
Quand tu vois le potentiel offensif qu'a Manchester City,
Ouais.
t'es vraiment déçu, tu t'attends à beaucoup mieux. Parce
C'est
que là,
vrai.
quand tu vois, ça se limite à un but d'Adebayor, ensuite ça fait tourner, ça cherche pas à marquer plus. Ça qui est dommage.
D'accord, ok. Et toi, qu'est-ce que tu vois demain pour ce City Arsenal à 16h?
Moi, je dirais comme Valentin, un petit match nul, 1-1. Ça me ferait.
Ça t'ira bien.
C'est pas que ça m'irait bien, mais bon. Je sais pas, en face, il y a quand même du lourd. Ils peuvent faire la différence à tout moment, même s'il y aura des absences.
Ouais, des absences de Tevez, Robinho à certains.
Et puis bon, Arsenal, voilà, c'est un beau collectif, mais bon. Après, on verra quelle composition va nous mettre Wenger, puisque l'autre coup, il y avait quand même Bednar à droite, contre Manchester United.
Et Carlos Vela pourrait pas prendre la place d'Arshavin à gauche? Moi je trouve bon moi en milieu gauche.
Ouais, il est pas mauvais, il a vraiment un sacré potentiel, mais physiquement il est cramé, quoi. Il a pas fait une très grosse préparation, et puis
Ouais.
Vela, ouais, Vela pourquoi pas, mais pas maintenant.
D'accord, ok. Bon, on va revenir un peu sur Tottenham Manchester United. Toi, ton ressentiment sur Tottenham, qu'est-ce que t'en penses un peu du grand rival d'Arsenal?
Ouais, franchement, c'est une bonne équipe.
Ouais.
Depuis 4-5 ans, ils s'entassent les transferts qui, sur le papier, sont assez alléchants. Et puis là, ça commence enfin à payer. Puisque bon, on regarde leur 11, un 11 compétitif qui peut vraiment emmerder le Big Four. Que ce soit
Ouais.
Arsenal, Manchester, Liverpool ou Chelsea. Je pense qu'ils ont vraiment un gros coup à jouer cette saison.
D'accord. Et comme on a pu apprendre aussi la blessure de Modric pour 2 mois, qui a été tout de suite remplacé par son compatriote Kranjčkar, toi, tu vois ça de quel œil?
Bon, c'est voilà.
C'est
Tant que
intelligent.
Kranjčkar,
C'est intelligent comme.
c'est le seul joueur qui tenait la route à Portsmouth.
Ouais.
Bon, pour Portsmouth, c'est une très mauvaise nouvelle. Puisque bon, c'est pas en recrute avec le recrutement qu'ils ont fait, ils ont recruté Pickion, Dindan après je trouve
Yepta,
ah, y
ça fait rêver.
c'est pas que le recrutement qu'ils ont fait qui vont faire grand-chose. Après, ouais, Tottenham, c'est intelligent. Ils ont déjà pour le banc, ils ont à part un sacré banc,
Ouais.
puis il va revenir, ça va faire une sacrée concurrence. Ouais, ils ont un très bon effectif. Par contre, ils ont un problème, c'est au niveau d'attaque, puisque Robbie Keane n'est pas à son meilleur niveau. Il a quand même raté de sacrées occasions lors des matchs que j'ai vus, et Paluchenko n'est pas énorme, et puis l'autre, je sais tout le monde s'appelle.
Ouais,
Puis voilà.
comme on a pu voir, Jermaine Defoe, c'est l'homme
Ouais,
en
c'est
grande
clairement.
forme.
Ouais, parce que si t'enlèves des fautes, c'est vraiment assez faible en ce moment.
D'accord. Arsenal va jouer contre le Standard de Liège en Ligue des Champions à l'extérieur. Toi, tu vois ça comment Tu vois comment l'équipe nationale mercredi contre l'équipe belge.
Ah, je sais pas, déjà
Bon,
j'avais gagné
heureusement,
puisque mon
bon, heure, attention, il y aura Witsel en face qui peut vous casser une jambe aussi. Attention, hein, celui-là, il casse des jambes.
Et puis au pire, Diaby peut lui mettre.
Non, mais Witsel, il est suspendu aussi en Champions League, Witsel ou
Non,
bien seulement
non,
pour
non, non, c'est
la Belgique.
juste championnat
Ok.
belge, hein, normalement. Normalement.
On a l'abri de rien.
Ouais, Bruno. Alors,
ça peut faire un bon match. Il y a des bons jeunes au standard. Il y a De Four, Witzel. Voilà, la bonne petite génération. Et puis bon, c'est Arsenal va tenir la route, ça c'est sûr.
Ouais, ouais.
J'aimerais bien voir ce que ça va donner. Mais franchement, ouais, je vois bien Arsenal gagner.
Ouais. Et est-ce que toi tu vois Arsenal aller un peu loin, enfin pas un peu, mais est-ce que tu vois Arsenal aller loin en Ligue des Champions? Surtout qu'en plus vous avez un groupe assez facile avec l'Olympiakos et la AZ Alkmaar. Bon, je pense que Arsenal va finir premier, mais est-ce qu'on peut compter sur Arsenal pour faire un long parcours en Ligue des Champions?
Ouais, ça.
Ça risque d'être difficile.
Bah, déjà sur le papier, il y a 4-5 équipes qui sont supérieures à Arsenal.
Ouais.
Mais c'est très différent, puisque je sais pas si t'as vu un match d'Arsenal cette saison, mais franchement, au niveau du jeu, même au niveau de l'efficacité qui était notre tort il y a l'année dernière, ça a vraiment changé. On est vraiment plus appliqué et tout, donc.
D'accord, ok. Non, mais en plus, là, vous avez gagné il n'y a pas longtemps un match avec un gros score. Je ne me rappelle plus combien c'était, 5 ou.
6-1.
6-1 contre Everton, voilà. C'est pas un match qui peut vous rassurer, non? Pour la suite?
C'est pas vraiment un match qui peut se baser, puisque je ne sais pas si tu as vu le match, mais voilà, Everton était complètement à la rue. Il savait plus faire. Il savait plus jouer au foot. Au bout du deuxième but, il avait tout abandonné, donc. C'est pas vraiment un match auquel il faut se baser.
Ouais. Ouais.
J'attends encore vraiment un très très grand match, c'est pourquoi pas contre Manchester City encore. Mais...
D'accord.
On avait tout grand match contre United, mais bon, on en a décidé autrement, avec un demi-plongeon.
Mmh. D'accord. Voilà, et qu'est-ce que toi t'en penses de la forme actuelle de Fabregas? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que sa convalescence a été bénéfique pour lui? Est-ce qu'il revient bien? Qu'est-ce que t'en penses, toi, du joueur espagnol?
Bah, je le trouve un peu décevant. Je trouve qu'il peut
ah bon
faire mieux. Ouais, un peu décevant. Et bah, je suis assez mixte en cas. Il peut faire vraiment des grands matchs, comme contre mais par contre, il peut être vraiment moyen. Comme contre United. J'ai pas trouvé très 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 bon. Mais bon, Inter va le faire jouer derrière les attaques. Je sais pas trop comment il va le faire jouer là.
D'accord, ok.
Voilà, par contre, j'aimerais bien parler de ça, qui est complètement.
De quoi?
J'aimerais bien parler de ça.
Song, ouais, vas-y.
Bah, Song, il s'est imposé en tant que milieu défensif, et franchement il fait des très très beaux matchs. Il est imposant dans les airs, il récupère pas mal de ballons, et au niveau de la relance c'est assez intéressant. Alors lui qui l'année dernière il était assez assez moyen, là il est vraiment devenu bon quoi. Ça fait plaisir d'avoir ouais. Un milieu défensif de niveau quoi, parce qu'Arsenal c'était ce qui manquait vraiment l'année dernière. Et c'est ce qui va manquer en cas de blessure ou en cas de départ de Song à la CAN.
Ouais. Ok, d'accord, Hugo. Ok. Bon, moi, je pense qu'on a été complet pour cette journée anglaise. À part si tu as quelque chose de.
Oui.
Vas-y, Hugo, je pense que tu as quelque chose à dire sur l'affaire Kakuta avec Chelsea.
C'est vraiment un truc qui m'énerve, je trouve ça vraiment inutile quoi. Le bonhomme il avait 16 ans déjà, ouais. Quand il 15-16 ans quand il est parti, on savait tous que c'était, enfin ceux qui suivent un peu les réserves des équipes en Ligue 1 savaient tous que c'était un très bon joueur, c'était certainement le meilleur joueur de sa génération, même en équipe de France il faisait des très bons matchs. Et puis voilà, Chelsea.
Combien de fois tu l'avais avec l'équipe de France?
Bah, j'ai vu le résumé, mais franchement, il avait une réputation. Tout le monde en
la
parlait.
La réputation dans le football, tu sais, ça se fait très rapidement.
Une réputation, tu vois, je veux dire. Là, on a parlé récemment, on m'a dit s'il y a une légende, comme quoi on le laissait passer avec le ballon tellement qu'il était bon, quoi.
Ouais, c'est une légende.
Et bah, c'est une légende, oui. Mais c'est vraiment un joueur très talentueux.
Ouais.
Et puis voilà, après, Chelsea vient le chercher.
Et en plus, maintenant, depuis cette décision-là, la FIFA commence à aller frapper dans plusieurs clubs.
Dans la progression d'un joueur.
Pardon ?
Est-ce qu'il veut jouer au centre d'entraînement de Chelsea ou rester à Lens dans le truc familial où tu sais pertinemment que tu vas pas énormément progresser, que... Voilà, en plus à Chelsea il s'est fait remarquer par Ballack, il s'est fait remarquer par le staff et tout, donc moi ce qui m'énerve c'est l'acharnement qu'il y a en ce moment sur les clubs anglais, quoi. On les traite de voleurs et...
Ouais.
Plutôt que de penser de s'adapter. Hein.
Ouais, mais surtout c'est, rappelle-toi de l'affaire Ashley Cole avant qu'il vienne à Chelsea aussi, quand Chelsea a essayé de négocier dans le dos d'Arsenal, on est un peu habitué à ces genres de méthodes avec Chelsea. Hein.
Ah mais là c'est différent, là c'est un joueur qui n'a pas signé.
Ouais mais...
Je sais plus, c'est un contrat jeune ou un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et puis, voilà quoi, c'est... Moi je trouve que c'est le football français qui doit s'adapter au football européen. Parce que bon, ça se fait souvent...
Non, c'est pas le football européen, c'est le football anglais. C'est différent.
Les Espagnols qui vont recruter un jeune venu de 7 ans, ça va faire mal gueule.
D'ailleurs...
Désolé, c'est différent.
Hugo et Valentin, j'ai une petite mise à jour à faire. Il paraît que le Barça a démenti cette information et n'a jamais voulu intégrer le jeune de 7 ans dans son école. En tout cas pour la Masia déjà. Pour la Masia, il n'intègre pas le centre d'entraînement du Barça. Voilà.
Ouais, bah ça va voir, c'est la façon à suivre.
Bah, il y avait l'histoire d'un jeune Marseillais de 12 ans qui a signé à Chelsea. Par contre, ça
oui, c'est condamné. Vrai. Ouais.
Ça, faut ouais, condamner parce que les jeunes là sont en train de rêver, ils sont en train de. Dès qu'ils voient le Barça, Chelsea, Manchester jouer, bah ça y est, ça les fait rêver.
Non, mais le truc en fait, c'est que si le joueur a un contrat, que ce soit de non-félicitation ou un truc comme ça, avec son club, alors là, ça devient dans la fraude. Par contre, s'il n'y a aucun contrat, il n'y a rien qui a juste une simple licence, alors là, ça peut être interprété comme un simple déménagement pour le joueur. Et là, il n'y a rien à dire. Alors que, je sais pas, c'est trop différent pour pouvoir vraiment tirer des parallèles entre ça et ça. Mais, je sais pas, c'est surtout les clubs anglais qui font ces pratiques. Donc, par contre, les clubs italiens, les clubs espagnols, c'est... Alors peut-être qu'on en entend moins parler aussi.
Ouais, peut-être.
Mais
ouais.
C'est moins...
Moi, je pense qu'il faut faire des règles. Je pense que l'UEFA ou la FIFA doit travailler ensemble, faire des règles, faire des lois. Et parce qu'en tout cas, c'est pas clair ces histoires-là de jeunes de 7 ans, 16 ans, 15 ans qui signent dans des contrats espoirs ou contrats stagiaires. Il faut, je pense, établir des règles pour tout le monde, pour tous les clubs mondiaux. Voilà quoi, mondiaux pardon, ouais mondiaux, mais je pense qu'il faut établir les règles pour tout le monde. Déjà au Brésil, je sais qu'un Brésilien n'a pas le droit de signer s'il a pas ses 18 ans en Europe, ça je le sais.
Non, mais...
voilà par exemple ça. Mais il faut protéger,
mais un sud-américain en général, hein, parce que...
oui voilà, un sud-américain en général, voilà. Mais je pense qu'en Europe, il devrait, je pense que la FIFA doit prendre des décisions et voter des lois, soit pour ou contre ces pratiques-là. Hein. Je c'est des histoires qui m'intéressent pas trop. Je vous dis la vérité, je suis plutôt neutre.
Non, mais après, je sais pas, voilà. C'est des histoires qui prennent des proportions immenses. Voilà, quoi. Voilà, quand on arrive de Chelsea, de Mercato durant deux saisons.
C'est vrai, c'est lourd. Hein, c'est lourd.
C'est une équipe qui en plus est vieillissante, même si derrière ils ont quand même des joueurs qui pourraient faire un intérim. Et quand tu vois que Kipak va peut-être arrêter sa carrière après 2010, c'est plus ce qu'il voulait faire. Ah, tu dis, ça peut vraiment emmerder aussi.
Ouais. Bah ouais, mais ouais, non, ouais, ouais, mais moi j'étais un peu surpris par la décision de la FIFA, hein, pour te dire la vérité.
En même temps, ça fait dans la fraude, donc bon, à partir du moment où tout est en règle, moi ça me dérange pas. Mais quand ça fait dans la fraude, faut arrêter, parce que bon, ce sujet, je le suis de plus ou moins près, puisque je connais quelques gars qui sont partis. Ils sont partis à 16 ans à Arsenal ou bien même à Lyon très récemment. Des gars qui jouaient dans le canton de Genève ou en Suisse. Mais il n'y a eu aucune polémique. Alors que, parce que peut-être ça a été fait dans les règles aussi. Hein.
Mais c'est, alors que quand t'as un contrat qui est signé avec le club, quand t'as des limites, des clauses qui sont mises, quand t'as des trucs comme ça, tu peux pas tirer des, tu peux pas des, aller chercher un joueur contre en niant les règles, que tu t'appelles Chelsea ou que tu t'appelles Arsenal.
Ouais, ok. Ah, voilà mon ressentiment. J'espère qu'on va avoir assez de lois assez claires et nettes pour tout le monde et qu'on va arrêter ces décisions un peu grotesques parce que voilà quoi. Je trouve que priver de Chelsea 2 saisons de mercato, je trouve ça un peu fort. Surtout pour un jeune de 16 ans ou 17 ans qui n'est même pas encore prêt pour jouer avec les pros.
Ah, ça, ce qui paraît à Chelsea, c'était avec la réserve, c'était un sacré morceau, quoi.
Oui, mais bon,
Oui,
il va pas être titulaire
mais c'était
indiscutable à Chelsea encore. Voilà, c'est ça.
un jeu très prometteur.
Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème sur ce débat-là. Bah, merci beaucoup, Hugo, de ton intervention pour le championnat d'Angleterre. Et on va passer tout de suite au championnat portugais avec Pierrot. C'est parti.
Génération Soccer.
Eh ben, sans perdre de temps, bah Pierrot, c'est à toi.
Voilà, donc pour la quatrième journée, pas de gros choc, hein. Moi je sais pas, j'ai rien à vous proposer. Oh, si, il y a un petit Marítimo Funchal Sporting Braga, puisque bah, le Braga c'est l'équipe de ce début de saison, ce solide leader, si je puis dire. Le nouvel entraîneur. Domingos Paciência a fait vraiment du très bon travail. Pourtant, avec Jorge Jesus, c'était pas évident, vu qu'il avait fait du, il avait quand même mené Braga, bon, je vais pas dire au sommet, mais une très, très bonne progression. Il a instauré un 4-3-3 où, bah, il y a pas grand chose à noter, en fait. Il s'appuie sur les mêmes joueurs de l'an dernier, donc les mêmes dont j'avais dit du bien. Après, on a Alan qui fait un très but de saison, très très bon début de saison sur l'aile droite. Et niveau recrue, il y en a qu'une, enfin il y en a qu'une, il y en a qu'une dans le 11 titulaire. C'est Hugo Viana de Valence qui s'est très bien intégré. Et, bah, Braga, avec ses bons résultats, à chaque fois augmente son budget et peut acheter des bons petits joueurs, qui fait que maintenant il se retrouve en tête du championnat. Et vu le début de saison pourri du Sporting, peut-être qu'ils peuvent viser le podium. Sinon, bah, en ce moment, on a un super Guimarães Naval, 2-0 pour Guimarães, donc voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Demain, il y a FC Porto, l'échange. Donc le FC Porto qui a fait un début de saison plutôt pas mal, même s'il y a quand même quelques interrogations. Le 11 titulaire, il est pas, on l'a pas encore vu. Il est pas encore très dessiné parce que ceux qu'on s'attend à voir titulaires n'ont pas vraiment la forme. Je pense par exemple à Rolando en défense centrale à côté de Bruno Alves, qui par rapport à la saison dernière est très décevant. Et l'arrière gauche Alvaro Pereira, qui pour l'instant est clairement en dessous du niveau d'Ali Sissoko. Après, dans les points positifs, on a évidemment Bellucci qui pour l'instant fait oublier parfaitement Lucho Gonzalez. Mais par contre, les deux titulaires de l'an dernier, Fernando et Raúl Meireles, font un début de saison franchement poussif. Je pense ils ont pas atteint leur pic de forme, parce que de là, je pense qu'ils ont pas perdu leur qualité. Pareil pour Hulk, j'attends de voir. Mais sinon, Falcao, qui a été recruté pour remplacer Lisandro, est vraiment très très bon. Il est très impressionnant, un but par match, très bon dans le jeu. Donc, bah, Porto, comme d'habitude, perd des joueurs essentiels et finalement les remplace plutôt pas mal. Et l'autre recrue, c'est celle qui avait été recrutée pour être un joker, c'était Silvestre Varela. Je me demande s'il va pas être titulaire au final, parce que son début de saison, sa pré-saison avait été très bonne, mais son début de saison est aussi très très bon. Donc, bah, ils vont jouer Chelsea en Ligue des Champions. Je sais pas si l'équipe est suffisamment prête pour faire un résultat là-bas,
Ça va être
mais
difficile.
c'est vrai que Chelsea sont
Quatre matchs,
très en forme.
4 matchs, 4 voilà. victoires en comment ça s'appelle en 4 matchs de championnat quoi.
Et en plus, il me semble que c'est en Angleterre, donc
Ouais. À Stamford Bridge, ouais.
Si Porto perd, ce sera pas une désillusion, non mais le début de saison qu'ils ont fait, ils ont montré de belles choses et je les attendais pas à les voir à ce niveau avec les nouvelles recrues et les départs. Donc moi, je suis très très optimiste pour ce match. Enfin, quand je dis très optimiste, bah, c'est par rapport à ramener un match nul, évidemment. Mais Porto me paraît parti pour peut au moins rééditer la performance de l'an dernier, c'est-à-dire aller en quart de finale. Mmh. Pour moi, ils peuvent très largement sortir de leur poule. Surtout que l'Atlético Madrid, ils ont, bon, évidemment, le championnat espagnol a à peine débuté, mais ils ont pas l'air très bon. Tout est relatif, mais je veux dire, ils sont pas au niveau pour accrocher une place en huitième de finale.
Dis-moi, à Porto, ils ont recruté Diego Valeri, hein.
Oui, bah, on l'a vu qu'une seule fois, et moi, je l'ai trouvé moyen, donc, je pense qu'il faut lui laisser le temps, mais, ouais. Pour moi, il est destiné à être remplaçant. Je pense que
remplaçant
déjà
de Bellucci.
Oui.
D'accord.
Mais
c'est un joueur à surveiller, ce Diego Valeri.
Ouais. Bah en fait, je le connais pas trop, mais
moi, j'ai pu le voir à Lanús. Il est très très bon.
Hein. Parce que justement, à Porto, il a pas beaucoup joué lors de la pré-saison.
Ouais.
Mais même presque pas, et il a fait une seule entrée pour l'instant, et bah pour l'instant il justifie le fait que Gesualdo Ferreira ne lui fasse pas confiance, mais bon, on a vu par le passé que les Argentins qui arrivaient au club, ils pouvaient s'imposer après un an et demi, donc évidemment on peut le voir titulaire l'an prochain ou un très bon joker, mais pour l'instant faut pas s'attendre à le voir jouer.
D'accord, ok. Tu peux continuer ta plaidoirie lusitanienne.
Bon, bah, le Sporting Portugal, ils vont jouer contre le Paços de Ferreira à domicile. Ils devraient l'emporter. Il est clair qu'ils ont besoin de confiance parce que leur début de saison est catastrophique.
Ouais.
Ils sont 6e en championnat. Ils sont pas en Ligue des Champions. Sinon, on peut dégager des points positifs, hein, parce que dire que tout le monde est nul, je pense que tout le monde. Disons que leur performance contre le Bayern fait qu'ils sont vus comme des gros nulos. Donc, déjà, si je leur tape dessus au niveau portugais, ça va plus aller. Donc, je vais parler des joueurs quand même. Par exemple, Matias Fernandez, la recrue du
qui
Sporting.
Qui a joué contre. Matias Fernandez, c'est celui qui joue au Chili, c'est ça hein?
Ouais, le Chilien, oui.
Il a joué contre le Brésil hier, ouais, j'ai pu voir.
Ouais, d'ailleurs, il a été plutôt bon.
Ouais.
Bah, au Sporting, pour l'instant, on voit qu'il a des qualités, mais il est un peu trop irrégulier. Donc, à voir, mais disons que par rapport à l'an passé, il y a du progrès, puisqu'il remplace numériquement Romagnoli, qui lui était une grosse chèvre. Donc, de ce côté-là, il y a du positif. Hein.
Et Caicedo, c'est comment?
Bah Caicedo pour l'instant c'est des blessures, donc je peux pas trop en parler. Il a fait une rentrée, c'était lors de la deuxième journée quand ils ont perdu contre Braga. Après évidemment comme il avait pas de rythme dans les jambes, c'est légitime qu'il ait été transparent, mais pour l'instant l'attaque c'est clairement Lietson, Yannick Diallo, parce que c'est ça l'autre surprise de ce début de saison, c'est Yannick Diallo qui se met à bien jouer, donc
moi je l'ai vu contre la Fiorentina, franchement c'est bien joué. Alors, je sais pas si c'est la même chose en championnat portugais, hein, mais la Fiorentina, attends, c'est grave ce joueur, c'est un Moussa Sow, comme j'ai pu le dire, c'est un Moussa Sow qui est pas physique, donc je sais pas, c'est le sentiment que j'ai eu en le voyant.
Oui, en fait, Diallo, l'année dernière, il était surtout mauvais. Son début de saison est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on a vu de lui avant. Après, c'est sûr que c'est un peu comme Fernandez, c'est que lui aussi, il est régulier. Après, justement, comme on ne sait pas ce qu'il va en être de Caicedo et de Elder Postiga, qui revient à peine de blessure.
sachant que Derley a pris sa retraite, il semble destiné à être titulaire. Après, Caicedo a été recruté pour remplacer Derley, donc on va voir. Mais Diallo a tout intérêt à faire des bonnes performances parce que là, il a vraiment sa chance pour être enfin titulaire au Sporting. Et puis, bah, le dernier club dont j'ai pas parlé, c'est Benfica. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, ils ont mis une grosse branlée au Vitória Setúbal, 8 buts à 1. Mais bon, c'est un peu l'apothéose de ce début de saison. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel non plus, mais par rapport aux années précédentes, on voit beaucoup de bonnes choses. Bon, après, il y a l'éternel problème du gardien de but, qui est Kim, qui est loin d'avoir retrouvé son niveau. Mais tous les secteurs de jeu sont bien pourvus cette année. On retrouve la défense centrale que tout le monde rêvait avant, c'est-à-dire Luisão, David Luiz. Bah, les deux, David Luiz qui enfin rejoint la défense centrale et qui montre qu'il est très bon. Luisão, lui aussi, fait un très bon début de saison. Schaffer, la recrue comme arrière-gauche, il a montré qu'il était bon, donc bonne pioche pour Benfica. Après, pour l'arrière-droit, Machi Pereira était blessé en ce début de saison, donc on peut encore rien dire, mais de toute façon, l'intérim effectué par Ruben Amorim a montré que il y avait de quoi faire en cas de blessure de Machi Pereira. Ensuite, au milieu de terrain, bah, celui que j'attendais pas parce que je l'avais pas beaucoup vu en Espagne, mais qu'on disait du bien, c'est Javi Garcia. C'est vraiment une très bonne recrue, hein. Il s'est vraiment imposé au poste numéro 6. D'où le départ de Yebda en Angleterre, hein. Il y a rien à voir entre les deux joueurs, hein. Javi Garcia, il a vraiment un très bon niveau. Et il s'est déjà imposé à Benfica et ça promet pour l'avenir. Et donc ensuite, bah, c'est le milieu de terrain en entier dont on peut... Oui, l'autre recrue, voilà. Je retrouve ce que je voulais dire. L'autre recrue au milieu de terrain, c'est Ramirez, l'international brésilien. Lui aussi, très très bon. Mais alors là, je le connais. C'est vrai qu'il avait une très bonne réputation, mais ce qu'a montré Ramirez en ce début de saison, c'est vraiment un joueur énorme. Finalement, je suis pas du tout étonné qu'il soit titulaire avec la sélection du Brésil parce qu'il y a vraiment de la grosse qualité. Et puis donc, bah, les deux autres joueurs du milieu de terrain, ils étaient déjà Benfica avant, mais ils avaient jamais exploité leur potentiel jusqu'ici. Jorge Jesus, je l'a fait. C'est Di Maria qui est enfin à une véritable place de titulaire à Benfica et qui est régulier et qui est bon. Et puis bah, l'autre joueur qui l'année dernière avait quelque peu déçu parce que il avait jamais été régulier et que son talent n'avait été aperçu qu'à de rares occasions, c'est Pablo Aimar qui véritablement replacé en numéro 10 par Jesus. On voit que là il est très bon, il peut servir les deux attaquants parfaitement. Et donc c'est un peu ça le début de saison de Benfica, c'est le nouveau schéma tactique qui finalement se trouve être la bonne solution. Et puis bah les attaquants, là aussi un gros potentiel, hein. Cardoso et Saviola titulaires pour l'instant. Saviola qui ne s'est pas véritablement imposé à mes yeux. Il a été mauvais ici, mais de par rapport à son salaire et de ce qu'on attend de lui, je trouve que c'est encore insuffisant. Cardoso n'est pas encore dans le rythme. Et puis les voyages en Amérique du Sud, ça ne l'aide pas. Donc, bah, well done, l'ancien socialien, qui avait été très bon au Brésil et donc recruté cet été, semble pouvoir tirer son épingle du jeu pour l'instant en attendant l'état de forme de Saviola et Cardoso. Et puis bah, la dernière recrue en attaque, c'est Kairison. Lui par contre, ça sent la grosse chèvre. Hein. Je suis désolé.
En parlant de légende dans le football, apparemment lui c'était un bon dans la légende.
Pour l'instant, c'est vrai qu'il a pas beaucoup joué non plus, mais à part mettre un but contre le Celtic B en match amical aux États-Unis, il a rien fait. Il a pu jouer un match en championnat et franchement, je le trouve vraiment mauvais. Hein. Pour moi, Barcelone l'a acheté pour le futur et puis l'a refilé à un club intéressé parce que Benfica cherche un attaquant. Mais Kai Harrison, pour moi, Barcelone s'est pris un gros boulet là.
À ce point-là?
Bah à ce point-là, ou sur ce que j'ai vu pour l'instant, oui. Après, peut-être ouais, qu'il, après, s'im... peut-être qu'il progressera, mais.
Ouais, il faut laisser un peu de temps, je pense. On verra.
Le problème, c'est que avec Weldon, qui lui s'est montré très bon, et puis Cardoso et Saviola qu'on présente plus,
ouais.
Il va quand même avoir du mal. Hein. Surtout ouais. Que je fais confiance à Nuno Gomes, qui pour l'instant met ses petits buts tranquillement pendant quand il rentre en jeu. Donc Weldon, Nuno Gomes comme joker sont satisfaisants. Et puis Saviola, Cardoso, on connaît leur potentiel. Donc je suis vraiment inquiet pour Kai Harrison.
D'accord.
Pour moi, je vois pas comment il peut s'imp... Il peut passer une année blanche à Benfica et devenir bon, mais pour moi, son année à Benfica, elle semble très compromise.
Ok, d'accord.
Donc, bah, j'ai fait le bilan des quatre équipes en vue de ce début de saison. Enfin, le Sporting lui est pas en vue, justement.
Mmh.
Donc, bah, comme je l'ai dit, Braga va tenter de garder sa place de leader à l'île de Madère lundi contre le Marítimo. Bah, le Marítimo, je vais pas en parler plus longuement parce que finalement c'est une équipe qui est toujours présente dans le haut du tableau. Ils font un bon début de saison cette année, donc bah c'est une équipe sérieuse et c'est pour ça que ça va être le premier. Enfin, on va voir si Braga va tenir la distance.
Ok.
Ce qui clôt la page portugaise.
Ok, merci Pierrot. Bon, on va parler très rapidement des matchs de qualification de la Coupe du Monde et on va fermer ce Europe des Soccer.
Génération Soccer. Paris ici livré spécial. Paris ici livré spécial. Paris ici livré spécial. Paris ici livré spécial. Paris ici livré spécial.
Voilà. On va parler un peu vite fait des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2010. On va rester encore avec toi, Pierrot, pour nous parler un peu du Portugal qui est dans une situation assez critique. Voilà, inconfortable, on risque
non,
de...
Non, critique, c'est... Enfin, ça va mieux.
Ça va un peu mieux depuis votre petite victoire.
La victoire en Hongrie, oui.
En Hongrie, plus voilà. Le match nul en Danemark.
4 points de match, ça augmente la moyenne de points par match, tout ça. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé.
Ouais. Vas-y, je te laisse développer un peu le Portugal. Et après,
déjà, contre le Danemark, on a vu un Portugal très, très entreprenant offensivement, très bon. Enfin, très bon, tout est relatif, qu'on fait un but partout. Mais vraiment, le Portugal a fait une prestation dans la lignée de celle qu'elle a fait depuis le début de l'année 2009 avec les remaniements tactiques. Donc, que je vais récapituler, c'est-à-dire Duda arrière-gauche, Pep en numéro 6. Et puis, la nouveauté de ce début de saison, c'est le passage à deux attaquants et la naturalisation de Liedson du Sporting. Donc le Portugal n'a pas été récompensé contre le Danemark. Ils auraient mérité la victoire malgré le fait qu'ils aient été menés 1-0 et qu'ils aient égalisé en toute fin de match. Ça représente pas du tout ce qu'on a pu voir dans ce match. Donc encore une fois, comme ça avait été le cas contre la Suède en juin, le Portugal domine mais ne gagne pas. Donc là encore, les inquiétudes d'avant étaient très présentes. Mais le doute n'est pas resté longtemps puisque le Portugal jouait la Hongrie dès la semaine suivante. Et là, contre la Hongrie, on a un peu vu l'inverse, c'est-à-dire que le Portugal a mal joué, mais a gagné. Ça s'explique du fait que le Portugal a marqué sur coup de pied arrêté dès le début du match. Donc, but de Pep de la tête, 1-0. À partir de là, effectivement, comme il y avait une grosse pression sur leurs épaules, je pense que Queiroz a fait le choix du repli défensif. À partir de là, la Hongrie a eu la possession du ballon et a fait très peur aux Portugais parce que évidemment défensivement c'est pas très solide. Même si Eduardo a fait un bon début de saison avec Braga, c'est pas non plus le gardien rassurant. Les latéraux sont très offensifs, donc quand on veut défendre un score, c'est pas évident non plus. Et puis le manque d'efficacité offensive qui est toujours là, ce qui fait que pendant que le Portugal repousse les assauts hongrois, les contres ne donnent rien. Donc Liedson a été quasi invisible et puis Cristiano Ronaldo, comme d'habitude, ne fait rien en sélection.
Très moyen.
C'est-à-dire toujours la même chose, quand il a le ballon, il élimine pas. quand il a des occasions de but, bah par exemple contre la Hongrie, il a eu plusieurs duels face aux gardiens, il les a perdus. Je sais pas comment il se sent dans sa tête quand il est en sélection, s'il se rend compte qu'il est mauvais ou pas, parce que avec sa réputation de gros melon, on a de quoi se poser la question. Mais il est clair que si Lietzson, qui a marqué contre le Danemark, s'avérait être une bonne idée parce que sa rentrée avait été très bonne, j'ai l'impression quand même que Lietzson, titulaire d'entrée, c'est pas une très bonne idée, que même si Guessi Mahan était très critiqué parce qu'il avait loupé une énorme occasion contre le Danemark et que bah, lui non plus c'est pas un vrai attaquant comme Cristiano Ronaldo, on pouvait penser que l'apport d'un Lietzson allait changer beaucoup de choses, mais finalement, il élève le niveau, hein. C'est sûr qu'à côté de Hugo Almeida ça n'a rien à voir, mais Lietzson c'est pas le Messi, et c'est vrai qu'il a 31 ans, mais Lietzson c'est pas un titulaire en puissance, c'est plutôt un joueur qu'apporte en cours de jeu. Mais sinon, le nouveau schéma tactique de Kelo semble... Bah, il est... Se dit donc que le 4-4-2 Diamant est pas mal avec Deco en numéro 10, les deux relayeurs que sont Thiago et Meireles. D'ailleurs, Thiago, qui est quand même... vu sa situation à la Juventus, je m'attendais pas à voir Thiago à ce niveau-là. C'est vrai que Kelo lui a fait confiance et sur les deux matchs, Thiago a vraiment été très bon. Et sinon, bah... globalement, le Portugal est bon, mais sans plus. Après, c'est ce qui fait que le Portugal, sans pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde, enfin, au moins aller en barrage, c'est le fait que le calendrier lui est favorable, puisque les deux derniers matchs, ils vont recevoir. Donc, dans un premier temps, la Hongrie, puis Malte, alors que de l'autre côté, on aura le duel fratricide entre le Danemark et la Suède. Donc, c'est un point que le Portugal... C'est un avantage qu'a le Portugal et ça pourrait bien lui permettre d'accrocher la deuxième place, voire la première si le Danemark et la Suède cèdent des points contre les petites équipes sous la pression.
Bien.
Ouais, allô. Oui, désolé.
Non, bah, t'as perdu là.
Non, désolé, Pierrot. Oui, ok, Hugo.
Oui,
Hugo, on va parler un peu de la France qui a fait match nul en Serbie. Ouais,
Hugo,
il parle.
On a des problèmes. Là.
C'est qui? Attends, ouais, Hugo, tu nous entends ou pas?
Oui,
ok. Toi, tu voulais un peu nous parler de l'équipe de France en Serbie qui a fait match nul un partout.
Ouais.
Vas-y, on t'écoute.
Déjà, c'est pour dire que je peux plus voir le 4-2-3-1 de Domenech avec Anelka à droite.
Moi aussi.
Ça commence.
Même si ça a été un des moins mauvais de ces deux derniers. Enfin,
ouais, oui.
Ça a été une des bonnes satisfactions quand même.
Oui, Anelka dans l'axe tout seul pendant à 10 contre 11, ça a été l'un des meilleurs joueurs du match.
Je veux dire, vaut mieux mettre un Govou, même si en ce moment il est pas très en forme, ou encore essayer Ribéry, même s'il veut pas trop jouer à droite, mais mettre un Anelka.
Ribéry le gros con, hein. disons-le tout de suite. De quel droit il se permet de dire qu'il veut pas jouer à droite? Enfin, disons que l'équipe de France a déjà suffisamment de problèmes comme ça. Si en plus Ribéry s'y met à pas vouloir jouer là où il demande, enfin c'est normal. Le pauvre Domenech, il a un peu des circonstances atténuantes quand on voit l'attitude de Ribéry, par exemple.
Ouais, Ribéry qui se prend un peu pour le Messi français, mais... voilà, qui sur les deux matchs il a pas fait grand chose. Franchement, faut le dire, son entrée contre la Roumanie, mis à part dribbler pour finir en sortie de but, ça a rien fait. Et contre la Serbie, bah, c'est pas un grand souvenir.
Bon, disons qu'il manque de rythme.
De physique, c'est ce qui manque surtout.
Puisqu'il a bah ouais, il a pas joué un match complet cette saison, donc c'est difficile de lui demander un véritable apport. Pour l'instant, il recherche du temps de jeu et bah évidemment, quand l'équipe de France a absolument besoin de victoire, c'est pas ce dont on a besoin et du coup, il sert à rien.
temps de jeu, quand on voit la performance d'Henri à gauche, prendre sa place, c'est quand même assez osé, quoi. Tu peux lui dire de jouer pendant 20-30 minutes à droite et à la fin on va le sortir pour prendre je sais pas qui, Malouda, pour essayer de le mettre à droite pour voir, et mettre Ribéry à gauche. Mais bon, Ribéry veut vraiment pas jouer à droite et c'est vraiment très mal de sa part, quoi.
Faut dire Ribéry. Contrairement au club où il veut changer de club, ça marche pas avec la France, hein, il peut pas changer de pays, faudrait lui dire.
Ouais, il peut devenir la MCM de Ch'ti, je crois.
Si ça se crée un jour, oui, peut-être bien, mais en attendant...
Les gars, on a eu une petite discussion, moi et Valentin, avant l'émission, sur le penalty de, sur la double peine de Lloris. Qu'est-ce que vous en pensez, Hugo et Pierrot, qu'est-ce que vous en pensez de la décision de Monsieur Rossetti.
Les sévères, mais bon. Il est en droit de siffler penalty, il y a faute. Après, oui. Le carton rouge.
Moi, je parle du carton rouge, moi.
Il est sévère. Après, on va pas se. C'est pas la fin. Parce que j'ai des. Parce qu'il a contesté une décision et c'est un coup très sec.
Et Pierrot ?
Disons que on sait que c'est à l'interprétation de l'arbitre, il y en a qui vont pas le mettre, il y en a qui vont le mettre, ça c'est déjà vu, donc ça me surprend pas tant que ça. On savait que ça pouvait arriver et malheureusement ça arrivait, donc peut-être que juste que Rossetti est fan de Mandanda et qu'on le sait pas, hein.
Ouais, peut-être, ouais. Mais non, moi je sais pas, Pierrot, toi tu trouves franchement que la décision est sévère ou pas?
Oui, c'est sévère, mais en même temps, comment arrêter le match sans ça? Parce que je me dis que c'est un mal pour un bien, le carton rouge, donc je pense qu'il faut s'estimer heureux en fait.
Ouais. Parce que franchement, la Serbie n'a pas été impressionnante, hein, pour dire la vérité, hein. Ils n'ont pas mis en danger une équipe qui était à 10 et eux, ils étaient à 11.
Ouais, d'un côté, ils sont pas dans la qualification. Je veux dire, ils ont fait le
technical
et ils l'ont bien fait.
Ouais.
Ils n'avaient pas d'obligation de résultat, c'est peut-être ça qui joue.
Ouais. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous en pensez de la situation de l'Argentine en Amérique du Sud? Je sais pas si vous avez pu voir le match contre le Paraguay. C'était hier à 1h du matin. J'ai trouvé franchement une équipe pathétique de Maradona. On sait même plus quelles sont les solutions. Moi, j'ai quelques idées. Par exemple, rappeler Riquelme, appeler Zarate, appeler des joueurs d'expérience comme Walter Samuel de l'Inter, je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà quoi, ces premiers éléments de réponse pour Diego.
Bah déjà, à mon avis, il faut les faire comprendre au Messi, parce que j'ai cru entendre qu'il n'était pas performant en équipe nationale, qu'il n'est pas indispensable. S'il n'est pas performant, il faut dire soit tu fais des performances, soit tu à mon avis, c'est de là où vient le problème. Ce sont des joueurs qui sont vraiment un talent fou et qui ne se donne pas à fond, et c'est vraiment dommage pour l'Argentine, qui est vraiment le plus gros gâchis en ce moment au niveau footballistique, quoi.
Ah ouais, d'accord. Ouais, mais bon.
Il joue à fond, franchement, en face, c'est un viol, quoi. Que ce soit contre la France, que ce soit contre l'Allemagne ou une telle équipe, ça va être énorme. Mais malheureusement, on dirait que c'est... que ces joueurs-là ne se sentent pas vraiment concernés par la nation.
Bah, ils ne se rendent pas compte de la situation qu'ils sont en train de se mettre, là.
Oui, parce que là, ça va faire depuis 1970 que l'Argentine n'a pas été qualifiée en... ne s'est pas qualifiée en Coupe du Monde. Et,
Ouais.
Ça serait vraiment une catastrophe, surtout avec l'équipe qu'ils ont, puisque franchement, sur le papier, il n'y a pas d'équivalent, quoi. Peut-être mis à part l'Espagne.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que l'Espagne est un grand favori pour cette Coupe du Monde. Mais moi, comme je l'ai dit, il faut que Maradona rappelle des joueurs qui ont l'habitude de la sélection, qui je sais pas moi, mais je trouve qu'il y a des joueurs qui sont pas à leur niveau. Ils rappellent des anciens joueurs comme Rolando Schiavi, comme Martin Palermo. C'est des joueurs qui ils ont fait leur temps. Je ne sais pas, moi, il faut rappeler des joueurs qui méritent la sélection argentine. Et là, il faut arrêter de bricoler, d'apprendre le métier. Il faut vraiment sortir de cette impasse. Parce que là, ça va être une grosse, grosse catastrophe pour l'Argentine si elle ne participe pas à la Coupe du Monde.
Bah, le problème, en fait, c'est que peut-être que les joueurs ils s'en rendent compte, mais c'est plus Maradona qui semble pêcher parce que bah, quand on regarde ses compositions d'équipe, on voit des joueurs de qualité, mais en fait, on voit pas ce qu'ils font ensemble sur le terrain. Je trouve qu'ils sont pas complémentaires et que, au final, le 11 aligné n'est pas cohérent.
Bah ouais, c'est ça, hein, c'est, on entend, ouais, voilà, il y a plus de solidarité. L'équipe est franchement, techniquement, elle est faible. C'est grave ce que je viens de dire, mais c'est ça, c'est à part Messi, au niveau technique, il n'y a personne. Avant, il y avait Riquelme, avant, il y avait Maxi Rodriguez,
avant, il y a encore Maxi Rodriguez.
Oui, mais il n'a pas joué hier, il n'a pas joué, mais bon.
Mais il a joué contre le Brésil.
Oui, il a joué contre le Brésil, mais bon, on a vu ce que ça a donné, 3-1, défaite. Voilà quoi, franchement, il y a plus de fond de jeu quoi. Quand il y avait l'Argentine de Peckerman, c'était très très beau à voir, l'Argentine de Peckerman. Là, Maradona, ça fait vraiment peur quoi. Ça commence à faire vraiment peur. On n'oublie pas aussi la défaite 6-1 contre la Bolivie. Voilà quoi, ça commence à m'inquiéter fortement.
Et puis en plus, ils sont, je crois, à un point de la Colombie qui est sixième.
Non, c'est l'Uruguay, Hugo. Et l'Uruguay, attention, la dernière journée, l'Argentine va jouer à l'Uruguay. Hein.
Alors, et en face, l'équipe dévouée corps et âme à Diego Forlan.
En plus, l'Uruguay peut encore se qualifier pour les barrages. Ça veut dire que tout est jouable. Mais franchement, la situation de l'Argentine m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me rappelle 2001 avec le Brésil, qui a eu du mal à se qualifier et qui a gagné la Coupe du Monde en 2002, alors que personne ne s'y attendait. Et ça peut se rééditer, mais bon, j'y crois pas franchement des basses. J'espère que l'Argentine va se qualifier, va se reprendre en main, mais il faut que Maradona rappelle certains joueurs parce que là, c'est plus possible.
Ouais, surtout, il faut qu'il rappelle les bons.
Exactement.
Parce que il avait appelé Gutiérrez, Don Castle, qui a quand même réussi à faire, pas lui tout seul, mais à faire tomber le club en deuxième division. Il avait aussi appelé, je sais plus quel joueur de Saint-Etienne.
Non, c'est pas Guarin, c'est.
Non, c'est Piatti, là. Non.
Celui qui est arrivé.
Ouais, Bergenacio, je sais pas comment il s'appelle.
Bergesio.
Hein?
Bergesio.
Ouais, c'est ça, ouais.
Oui, là, il est passé par Benfica, je le connais un peu.
Voilà, bah. Non, mais franchement, on dirait que Maradona appelle ses cousins, quoi. C'est qu'il veut même plus appeler les joueurs qu'il faut. Et il appelle les joueurs qui lui il veut. Et il faut vraiment qu'il arrête de faire un peu n'importe quoi, de prendre n'importe qui, des Emiliano Papa, des joueurs qu'on connaît. Non, mais faut dire la vérité, c'est des joueurs qu'on connaît même pas. C'est des joueurs que ça se trouve qui méritent même pas d'être sélectionnés. Et lui, il les sélectionne, on sait même pas d'où ils viennent. Tandis qu'en Europe, on a des Walter Samuel, on a des Bourdisso, on a des Demichelis, on a des grands joueurs.
Di Maria qui était pas là non plus.
Angel Di Maria, exactement. Mario Mauro Zárate à la Lazio. On peut faire une équipe magnifique, mais là, voilà quoi.
Plus par rapport à Zárate, on disait qu'il était capable de jouer demain. finalement, ça se confirmerait que le club ne veut pas prendre de risques, la Lazio ne veut pas prendre de risques, et que finalement, il partirait sur le banc, voire même dans les tribunes.
D'accord, ok, merci Valentin pour cette précision. Je ne sais pas si Roméo est avec nous pour nous parler un peu de l'Algérie. Vas-y Roméo, parle-nous un peu de ton pays qui est sur le point de se qualifier. Ouais, je sais, avec Daniela, je sais.
Oh, Roméo, là.
Roméo, rapproche-toi du micro.
Enlève-le de la télé, là.
Ah, merde. Oui, allô.
Oui.
Donc, je disais que je m'en remettais de mes émotions.
D'accord.
Donc, oui, par rapport à l'Algérie, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Contre la Zambie. Non, oui, donc victoire contre la Zambie 1-0, mais en première mi-temps, c'était assez poussif. Hein. L'Algérie avait du mal.
Beaucoup trop de pression, je pense.
Oui, enfin, je sais pas, mais il y avait beaucoup d'imprécisions dans les passes. Ils n'arrivaient pas trop à trouver ce milieu et donc trouver après les deux attaquants. Et après, en deuxième mi-temps, ça s'est décanté. Le premier but, il a complètement fait... Il a libéré les joueurs et le match était beaucoup plus intéressant par la suite. Avec ce 3-5-2 ou 5-3-2 ou 5-2-1-2, je sais pas
comment vous l'appelez.
Non, soyez honnêtes, c'est 5 défenseurs, hein, parce que...
Oui. Enfin, sauf Belhadj sur le côté gauche qui monte beaucoup.
Ouais. Faut compenser.
Oui, voilà. Donc avec les trois défenseurs centraux, les deux milieux de terrain, Lamouchia et Mansouri, avec Ziani juste derrière en numéro 10, derrière Djebbour et Saifi, bah ça marche bien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
Ouais, 1-0 contre la Zambie, ça marche bien. Hein.
Non, mais la Zambie, mine de rien, la Zambie en première mi-temps a bien joué. Hein. La Zambie a bien joué, il y a eu de belles phases de jeu. Notamment avec leur petit numéro 10 là où ailier droit je sais qui il me semble qu'il joue en Ligue 2 même j'ai oublié son nom mais en tout cas le donc à la prochaine journée l'Algérie recevra le Rwanda et attention à la Zambie parce que c'est pas dit que l'Égypte aille chercher un résultat positif en Zambie
et si l'Égypte est à l'extérieur surtout
ça surtout. Sent un peu ça
et sent la Zambie à domicile.
Ça sent un peu la fin pour l'Égypte.
Je pense que l'Algérie devrait prochainement valider son
ticket,
son billet après cette journée.
Mmh. Ah ouais. Parce que si vous gagnez contre le Rwanda à 80% voire 70%.
Mais s'il y a un statu quo, c'est pas sûr du tout parce que c'est à la différence de but particulière.
Oui, mais vous êtes déjà à plus 2 quoi. Parce que vous
avez battu. Particulière. Attends. Particulière.
Ça veut dire confrontation directe.
Oui, et l'Algérie a gagné 3-1 à domicile contre l'Égypte. Il suffit que l'Égypte gagne 2-0. Et on ne sait jamais, c'est pas un score impossible à faire.
Non, je ne pense pas.
Mais le plus difficile à venir pour l'Égypte, c'est le déplacement en Zambie, je pense.
Ouais. Donc, d'accord. Ok, non, mais bon, comme l'a dit Roméo, je pense que le match Égypte-Algérie peut être juste anecdotique, vu la situation. Mais comme je l'ai dit, je pense que l'Algérie devrait aller en Coupe du Monde normalement. Il faudrait une grosse catastrophe ou une grosse bêtise de l'Algérie pour qu'elle n'y aille pas, quoi. Ils n'ont jamais été aussi prêts.
Ah oui, ça serait une faute professionnelle de ne pas y aller. Là.
Ah ouais, j'avoue, ouais. Vu leur très beau parcours et vu leur belle victoire à domicile contre l'Égypte, d'ailleurs, moi je trouve qu'ils mériteraient d'aller en Coupe du Monde. Voilà.
Bah oui, ça ferait plaisir. Hein. L'Algérie n'est pas allée à la Coupe du Monde depuis 86.
C'est ça.
Au Mexique. Mm-hmm. Et avant la première participation, c'était en 82 avec, on se rappelle l'épisode malheureux Autriche-Allemagne.
Ouais, c'est vrai. On se rappelle tous, ouais.
C'était les deux seules participations et là, on pense fortement à 2010. Voilà.
Ok, 2010 d'accord.
En Afrique, toujours.
Hmm. D'accord.
Et vas-y, vas-y. Je sais pas si t'as parlé de la Tunisie, mais la Tunisie est
on va en parler tout de suite.
Bah, c'est quasiment fait.
Quasiment. Non, c'est moins fait que c'est moins fait que vous, par exemple, parce que nous, on a réussi à arracher. Non, parce qu'en fait, je vais vous expliquer le match comment il s'est passé, parce que j'ai vu le match. On se fait mener 1-0 par Peter Ondewingi à la 26e. Nabil Taider, l'ancien joueur de Toulouse, égalise tout de suite après, à peine une minute après le but d'Ondewingi. Après, pendant tout le match, il faut dire la vérité, la Tunisie a beaucoup reculé, a essayé de jouer en contre. A subi, voilà, c'est ça, a subi, a procédé en contre sans vraiment doubler la marque. Ensuite, Michael Eneramo, le joueur de l'Espérance de Tunis, a doublé la marque à la 80e minute. Et à la 88e, son coéquipier, qui joue aussi à l'Espérance de Tunis, a marqué l'égalisation Oussama Daraji, un joueur à surveiller.
Oui.
À surveiller parce que ça a l'air d'être un gros gros joueur. Moi je reste prudent encore parce que je préfère encore attendre, mais ça a l'air d'être une très très belle promesse pour l'avenir du football tunisien. Et il nous délivre à la 88e minute d'une défaite au Nigeria et qui nous ouvre peut-être les portes de l'Afrique du Sud, mais on n'a que 2 points d'avance sur le Nigeria, rien n'est fait encore.
C'est tout dur là.
Pardon ?
C'est tout dur. on te voit pas, mais je suis sûr
que t'es en sueur.
Tes yeux brillent là, il y a une lueur là, mais comme si tu venais de tomber amoureux.
Ah bah oui, mais la Tunisie c'est mon pays et j'étais complètement heureux de l'égalisation de Oussama Daraji. Et il nous manque 2 matchs. Si on fait pas les cons, et ben normalement on va en Afrique du Sud. On a un match à domicile contre j'ai oublié
contre le Kenya.
Vas-y Roméo.
Surtout c'est que ce match nul arraché au Nigeria,
ouais.
Ça permet on s'en rend pas compte parce que 2-1 le Nigeria se qualifie quasiment.
Ils ont un point d'avance sur nous, ouais.
Voilà, un point d'avance sur la Tunisie et en plus le Nigeria est devant à la différence de but particulière alors que là avec ce but ça ouais. Renverse tout. Le Nigeria a 2 points de moins, la Tunisie un point en plus, et en plus, la Tunisie repasse devant à la différence de but particulière.
C'est ça. On a fait une excellente opération là-bas. C'est quasiment une victoire qu'on a. Elle est considérée comme une victoire ce match nul au Nigeria. Même si au match aller, on aurait pu largement gagner parce que j'ai vu le match à Rades. Le match, on aurait dû gagner au minimum 2-0, mais malheureusement, ça s'est terminé à 0-0. Voilà, mais maintenant, comme l'a dit Pierrot, on a un match à domicile contre le Kenya et un match à jouer contre le Mozambique, notre deuxième plus gros adversaire du groupe avec le Nigeria, bien sûr. Si on gagne le. Pardon ?
Sur 4 quoi.
Ouais, sur 4.
Sur 3. Sur 3 adversaires.
Bon, oui, mais bon. Oui, mais c'est bon. Oui, mais Pierrot. Pierrot, faut pas oublier que le Nigeria a fait match nul au Mozambique, quoi. C'est ça qui.
Bah ouais, mais à la fin ils sont pas en Coupe du Monde, donc.
Bah oui, mais bon, si on pouvait faire le plein, si on pouvait gagner, je pense qu'on va gagner contre le Kenya en Tunisie. Si on pouvait gagner Mozambique, ça serait.
Ça semble possible.
Oui, c'est possible, mais.
C'est dans vos cordes.
Moi, je reste très prudent. Tant que c'est pas fait, il faut se méfier des matchs à l'extérieur en Afrique, qui sont assez spéciaux dans leur ambiance.
Dans le sable.
Dans le sable, comme tu. Dans leur gazon artificiel. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ce serait une bonne nouvelle que l'Algérie et la Tunisie aillent en Coupe du Monde. J'aurais bien voulu que le Maroc nous accompagne, mais ça a l'air très très mal parti pour
un
eux.
Un miracle à la fois.
Voilà, exactement. Voilà. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on va terminer avec cette Europe des Soccer du vendredi.
Très grand tour.
Ouais, du très très grand tour.
La preuve, on est en Afrique et en Amérique du Sud.
Voilà. Ok. Bah, ce soir, avec moi, il y avait Roméo. Salut Roméo.
Salut à tous. Vous allez enfin pouvoir regarder Secret Story tranquille.
Voilà. Et Pierrot avec nous.
Bonne nuit à tous.
Et aussi Valentin qui était avec nous.
Salut à tous.
Et aussi il y avait Hugo aussi qui était avec nous mais qui a dû partir pour cause de pour cause familiale. Voilà, merci Roméo. Allez, je vous dis bonne soirée à tous et à la prochaine sûrement pour demain et enfin pour ce week-end pour de la Ligue 1 et du football.
Et surtout demain le grand rendez-vous.
Le canapé.
Le live canapé à partir de 21h sur Général Soccer.
Annonce-nous la team, s'il te plaît.
Ah, ah oui, je sais plus. Bah, il y aura moi, bien sûr. Il y aura aussi Jus. Putain, j'ai oublié. Bon, c'est...
Bref,
vous verrez, venez demain, mais il y aura du beau monde, ça sera à ne louper sous aucun prétexte.
Voilà, bah, reprends ton souffle, Roméo. Ok. Bon, bah, allez.
Est-ce que Daniel Loboya marquera un but?
On verra. Grande question.
C'est la grande question de la soirée.
Ouais, de ce week-end.
Débat tournera autour de ça, principalement. Non,
exactement.
Allez. C'est possible.
Allez, salut à tous, bonne soirée, ciao.